Bonsoir à tous, salut, comment ça va?
Salut Benjamin.
C'est un gros plaisir, vraiment c'est un grand plaisir et un kiff de vous retrouver tous les lundis soirs dans cette émission. Bonsoir mon Joseph.
Bonsoir Benjamin.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Franchement ça va bien, tu sais qu'on a célébré le guide Michelin, tu sais, les étoiles.
Oui.
Et tu es officiellement 3 étoiles au guide Michelin dans mon cœur.
Oh.
Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. Les gens ont peur de perdre une étoile. Joseph en prend 3 d'un coup. Et voilà, je voulais te le dire.
C'est mon côté bibardum qui te plaît.
Ouais, c'est ça, c'est les petits. Non, mais tu es dur avec toi-même.
Écoute.
Tu es dur avec toi-même. Bonsoir, Florent.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va et toi?
J'ai pas de vanne par rapport au Michelin, mais tu es déjà. Je sais pas. J'allais faire une vanne entre bonne et le repas, gourmande, mais c'est pas
non.
Gourmande. Non, mais
non,
c'était assez maladroit. Croquante.
Croquante.
Ouais, il y a très côté Cyril Lignac.
Croquante, gourmande. Croquante, gourmande.
Ouais. Ouais. C'est, mais bon, écoute, c'est
fondant, c'est croquant, c'est malin.
C'est malin.
C'est malin.
C'est plein de goût. Et c'est cool. Ça va bien?
Ça va et toi?
Franchement, ça va hyper bien. Je dis bonsoir à la chatroom ce soir parce qu'on va beaucoup faire appel à vous ce soir parce qu'on a un thème très particulier à aborder et essentiel étant donné notre secteur d'activité, Flore.
Oui, et ben c'est comment est-ce qu'on renouvelle le libertinage, quelle est son évolution, d'où ça vient, quels sont les codes, comment ils sont venus là et quels sont d'ailleurs ces codes-là, est-ce qu'il y a des vrais, des faux libertins, et aujourd'hui c'est quoi le libertinage, comment est-ce qu'on pourrait peut-être tendre, comment est-ce qu'on pourrait le rendre moins normatif. Est-ce qu'il y a une opposition des générations,
vraiment? Il y a une génération de libertins. Ouais.
Sur le libertinage, est-ce qu'il faut réinventer les codes? Voilà, on va surtout parler de tout ça, les codes, et aujourd'hui, les gens qui s'en plaignent, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Voilà, donc on attend vraiment toutes vos idées, tous vos commentaires, donc vraiment n'hésitez pas à interagir avec nous, surtout sur cette émission qui parle de vous, en fait.
Ouais, on est ensemble jusqu'à 23h en direct et en simultané sur wild.com et Facebook Live. On va rester jusqu'à 23h aussi sur Facebook parce que d'habitude, on coupe quand il y a des parties un petit peu olé olé, parce que c'est aussi le délire de cette émission, il n'y en aura pas ce soir. On va rester très sérieux, très habillé.
Très sage, très...
Hein, il y a des invités autour de la table, quand ils sont venus, ils n'étaient pas beaucoup habillés. Et là, ils se sont dit, c'est-à-dire que les personnes, ça se déshabille. Non, mais non, t'inquiète, tu peux rester habillé. Notamment toi, Christina.
Bonsoir, Benjamin.
Ça va?
Très bien.
La dernière fois qu'on s'est vus, c'était en juin. Et comment te dire?
Je suis restée habillée la deuxième fois. Effectivement, la première fois, tu m'as mise dans un traquenard et tu m'as fait me déshabiller, oui. J'étais consentante. Hein.
Bon, toi, tu es une abonnée un petit peu premium de Wild, puisque tu nous suis depuis très longtemps. C'est vrai qu'on est en contact, tu viens dans l'émission.
Ouais. J'interagis beaucoup avec vous.
On se connaît bien, tu as beaucoup d'expérience, tu n'es pas forcément tout le temps d'accord avec nous. Et c'est pour ça que tu es là aussi. Et ça fait plaisir de t'avoir une nouvelle fois. Bonne année à toi.
Bonne année,
toi, et des 3 étoiles au guide Michelin aussi pour toi, Christina. Thibaut aussi, qui était là avec toi aussi dans l'émission, parce que je rappelle un peu, en juin, quand tu étais venu, on avait fait une émission, on avait un délire. On s'est dit, tiens, Joseph, et si on faisait une émission toute nue? Alors, on a fait une émission toute nue.
Tu oublies de dire que c'était sur un pari que tu avais perdu.
S'il faisait 30 degrés à partir d'une certaine date, eh ben, on se mettait tout nu. Il a fait 30 degrés à partir de cette date-là. Et voilà, on tient parole, en fait, chez Wild. Et on a fait une émission toute nue où Thibaut, bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Tu étais là, en fait, en barman.
Ouais, en barman.
Voilà, et tu avais fait des mojitos. Et on avait mal fini cette émission. Cette émission. Honnêtement, à la fin, on était pas bien. On avait du mal à articuler. Alors, si vous voulez revoir cette émission, là, c'est exclusivement pour les abonnés wild.com. C'est aux alentours de juin. Alors, on est, moi, je suis torse nu. Enfin, toi, t'es à poil. Thibaut est en serviette. C'est n'importe quoi. C'était un grand n'importe quoi, cette émission. Mais on s'était bien. Joseph a montré des choses que jamais on a vues de sa vie. Tu vois, moi, c'était incroyable. C'était vraiment.
Vous êtes les premières personnes au monde à avoir vu ça.
Oui, c'est vrai.
À part
c'est vrai.
Tes parents, peut-être?
Même pas, figure-toi. Même pas, c'est une technique d'accouchement très spéciale. J'en parlerai après l'émission.
C'était assez incroyable. Voilà, c'était des beaux souvenirs de cette saison 1 de Wild de l'émission. Et puis pour compléter ce plateau ce soir, David Simard, bonsoir.
Bonsoir.
Tu étais déjà venu dans cette émission aussi.
Oui.
Pour parler des normes dans la sexualité.
Oui.
C'était hyper intéressant. On peut dire que tu es philosophe. C'est un peu la classe. Tu n'as pas tes lunettes, pourquoi?
Parce que c'est surtout pour lire que j'en ai besoin.
Un philosophe a des lunettes, je te vannais hors antenne en fait.
Ouais.
Parce que le philosophe, dès que t'es philosophe.
Ouais, je pourrais les mettre tout à l'heure.
Tu as des lunettes, tu es à l'université Paris-Est, Créteil.
Ouais.
Et tout se passe bien.
Oui.
Et tu es avec nous pour parler de l'évolution du libertinage, de l'histoire du libertinage. Un peu recadrer tout ça, tu es un peu là. Tu es au-dessus de nous quoi. Là tu es ici, mais je te vois d'en haut comme ça, dans le coin de ce studio qui a changé, t'as vu?
Oui.
Est-ce que tu es bien là?
Oui, ça, il y a un côté, c'est américain.
Oui, il y a un côté un petit peu américain, un petit peu American Touch, mais alors on est content. En tout cas, voilà, on est ensemble jusqu'à 23h. Merci beaucoup tous les trois d'être avec nous ce soir. Joseph se fera le relais aussi des questions dans la chatroom, puisque Flore l'a dit, il a introduit au début de cette émission, nous allons parler du libertinage. Est-ce qu'il évolue? Alors, on s'inclut aussi dedans, parce qu'en tant que leader, on est un petit peu, sans prétention, la locomotive de tout ça, on est reflet du libertinage en France. Et donc, on pourra aussi aborder les questions sur l'évolution de Wilde depuis 2001. Je sais qu'il y a pas mal de réaction par rapport à ça. Et je dis bonjour à la chatroom. On va commencer avec un tour de table sur votre définition du mot libertin. C'est quoi un libertin? Est-ce que Thibaut, tu as envie de commencer?
Bon, bah, moi, je vais faire très basique. Le libertin, c'est à la fois quelqu'un qui est un libre penseur qui va être un petit peu contre les dogmes, contre les bonnes mœurs, on va dire, qui va sortir un peu de tout ça. Aujourd'hui, libertin, c'est aussi sexuellement, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus axé sur le plaisir charnel et avoir le plaisir charnel à plusieurs. Je pompe très largement Wikipédia au passage.
Bah, tu pompes beaucoup toi, dans ta vie en général, donc c'est ça qui te caractérise aussi. Donc je plaisante, Thibaut. Alors Thibaut, je t'ai pas présenté. Tu travailles chez Wild. Tu t'occupes. Non, tu travailles pas chez Wild. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs chez Do?
Moi, je suis en charge des partenariats avec les clubs.
Voilà, donc tous les clubs qui nous contactent ici pour X raisons, pour organiser des soirées, pour avoir des goodies, pour savoir comment ça se passe, les partenariats et tout, et ben c'est avec toi qu'ils traitent.
Exactement.
Et ils sont beaucoup à nous écouter ce soir, donc voilà, vous pouvez enfin mettre un visage sur la douce voix de Thibaut que vous avez à longueur de journée au téléphone. Voilà, et je précise que tu n'es pas libertin. Voilà.
Non.
Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir votre définition à tous les trois, vu que vous avez tous des profils différents. Christine, toi qui est abonnée Wild, qui est libertine.
La définition du libertin, y a un petit peu de ce que disait Thibaut, hein, y a la liberté d'esprit, la liberté de penser, le droit qu'on s'accorde de réfléchir différemment et d'envisager les codes de la société très différemment. Il y a cette libération sexuelle qui en découle, puisqu'on se place un peu en dehors du cadre. Donc du coup, tant qu'à faire, autant en profiter pour se faire plaisir.
Ouais.
Mais il y a plus que ça, je trouve. Je trouve qu'il y a, dans le libertin, il y a la liberté, mais il y a...
Une tolérance aussi, derrière tout
Une grande tolérance. Ça participe de l'ouverture d'esprit, en fait. On devrait être capable d'accepter toutes les façons de penser des autres. Même si elles ne nous correspondent pas, on peut dire très bien ça ne me correspond pas, mais je ne suis absolument pas dans les extrêmes, dans le BDSM, dans le fétichisme et les choses comme ça, mais je suis curieuse, j'essaye de les comprendre, de comprendre comment ils fonctionnent, et puis je les laisse vivre leur vie, hein, à partir du moment où on ne m'impose rien. Voilà.
D'accord, donc ça rejoint un petit peu...
Ça rejoint énormément ce que dit Thibaut. Oui,
Thibaut. Oui. David, alors pour toi, c'est quoi un libertin pour toi?
Pour moi, effectivement, il y a le concept central de liberté, par construction même du terme libertin, en sachant quand même à la base que ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas non plus des auteurs, des écrivains, etc., qui se sont eux-mêmes désignés comme tels. Ils l'ont été par les apologètes, c'est-à-dire par les religieux, par rapport à la morale, par rapport aux dogmes religieux et donc aussi sur le plan sexuel, qui mettaient en cause toute la dogmatique chrétienne d'une manière générale. Donc c'était un positionnement, une manière de stigmatiser des personnes. Mais on voit bien avec ce terme de liberté qu'il a pu être réapproprié par les personnes ainsi désignées. Et du coup, on entend effectivement cette défense de la liberté, d'une certaine liberté par rapport à des normes, par rapport à des dogmes. Donc je pense que le libertinage doit forcément avoir une certaine définition de la liberté pour qu'on puisse dire de quoi il s'agit.
Ce qui est bien, c'est que vous avez tous parlé avant de liberté que de relations sexuelles. Je trouve ça cool.
Bah oui.
Après, aujourd'hui, quand on parle de libertinage, c'est plus ça vraiment. Parce que les polyamoureux, c'est des libres penseurs, c'est machin. Par contre, c'est pas des libertins. Faut pas les mettre dans le même panier. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans la vraie définition de la communauté, parce qu'on va peut-être parler de communauté plutôt que d'un mot fourre-tout, la communauté libertine actuelle, je pense qu'il vaudrait plus parler de pratiques sexuelles que d'autres choses. Et d'une pseudo-libre-pensée qui fait très bon chic bonjour chez les libertins.
C'est le folklore, c'est ça? C'est un peu le folklore?
C'est-à-dire
Ben, tout ça, de tout le décorum du libertinage.
Non, c'est de... Parce que oui, c'est vrai que chez les libertins... Bon, je vais me faire plein d'ennemis, mais c'est pas grave. Mais il y a ce côté, oui, nous sommes des libres penseurs, des machins. Mais oui, mais chez les BDSM aussi, c'est des libres penseurs. Chez les polyamoureux aussi, c'est des libres penseurs. Bon, arrêtez de penser que la liberté de penser, elle vous appartient. Non. Ben, en plus, on sait que c'est un peu codifié, qu'il y a certaines règles à respecter. Puis quand vous libertinez en couple, non, on peut pas faire n'importe quoi, même de son corps. Faut toujours s'assurer du consentement de l'autre. Bon. Donc, peut-être à relativiser ce côté libre-pensée. Oui, elle est là, elle existe, c'est clair. Mais elle existe aussi chez les BDSM, elle existe aussi chez les polyamoureux, elle existe aussi chez plein de mondes différents. Et peut-être remettre au centre de la définition de la communauté libertine actuelle la pratique sexuelle, puisqu'elle est... maintenant, le centre, c'est un petit peu... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un petit peu ça.
David ?
On peut mettre au centre, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de libertinage, on désigne les pratiques sexuelles. Il y a même des confusions qui sont parfois faites avec le terme échangiste, alors que, je dirais, le libertinage ne se réduit pas à l'échangisme.
Bah non, d'ailleurs, en parlant des thèmes, les infos intox de Fleur Chérie tout à l'heure avant 22h, ouais. Sera justement, est-ce que ces termes libertins existent ou non ? Il y aura des magazines Union à gagner.
En fait, ça va être, je vais vous demander la définition des mots pour être précis.
D'accord. Et donc, effectivement, il y a ce centrage aujourd'hui sur la question sexuelle. Mais qu'est-ce qui fait que dans les pratiques sexuelles, on va pouvoir les qualifier de libertines ou pas ? Ça va bien être par rapport à un certain nombre de codes. Par rapport à des références, des normes, qui peuvent être juste des normes statistiques, mais qui souvent, du coup, ont tendance aussi à être des normes prescriptives, de comportement, de la vie sexuelle, dans le couple, monogame, exclusiviste, etc. Et donc, c'est quand même par rapport à un certain nombre de normes sociales du sexe, des normes sociales du sexe, que le libertinage, malgré tout, se positionne en ce...
C'est la transgression des normes. Mais encore une fois, oui, la transgression, tout comme le BDSM peut être une transgression des normes, mais n'est pas du libertinage. Et c'est là où je pense que le libertinage, il y a vraiment une notion de diversité et des possibilités des partenaires, d'un champ des possibles des partenaires qui n'est pas possible peut-être moins dans le BDSM ou dans le polyamour, qui est peut-être...
Je ne suis pas d'accord avec toi de dire que le BDSM n'est pas du libertinage. Il peut en être.
Ah oui, il peut, pardon.
Il peut en être, comme il peut ne pas en être. Enfin, ça dépend de la façon dont on, justement, définit le libertinage. On peut dire que le libertinage, c'est uniquement, justement, ces pratiques sexuelles à deux, à plusieurs, qui se font de façon consentie et en soirée ou en privé ou en club. Mais on peut aussi y inclure tout ce qui est pratique sexuelle, quelle qu'elle soit, que ce soit que ce soit l'homosexualité, la bisexualité, que ce soit le BDSM, le fétichisme, que ce soit les paraphilies. Il y a certaines paraphilies qui sont tout à fait bénignes, on peut dire, et qui sont pas du tout dans des niches à part. Elles font partie, je pense, d'un grand tout qui est le libertinage, qui est justement cette idée de explorer ce qu'on a envie d'explorer avec des gens qui sont prêts à le faire aussi.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Christina, c'est que le libertinage, pour moi, par rapport à la définition telle que je l'ai lue, parce que comme je ne suis pas libertin, je n'ai pas d'a priori, il faut que c'est plus je vais me renseigner et me baser sur ce que j'ai lu. On parle de liberté dans les pratiques sexuelles. Le BDSM est une liberté. On sort de la norme, on sort de la bonne pensée selon les religions. Donc, à partir de là, ça peut rentrer dans le libertinage. C'est juste une question. En fait, pour moi, le libertinage, c'est extrêmement vaste. Ça regroupe beaucoup de choses et peut-être même le polyamour. Puisqu'on sort du cadre standard de un homme, une femme, un mariage, etc. Est-ce que ce qu'a dit Christina, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle vient de dire sur le fait de la bisexualité, l'homosexualité, tout ça, finalement, ça sort du cadre. Donc, à partir du moment où ça sort du cadre qui est prévu par la religion, finalement, c'est du libertinage.
En tous les cas, on voit qu'il y a autant de définitions possibles de libertinage que de variétés de pommes dans les vergers. Donc,
il dirait qu'il y en a beaucoup.
Il y a 30 variétés de pommes. Je crois qu'il y a plus de
définitions. Il y en a beaucoup plus que ça, à mon avis.
Du libertinage. Ça aussi, c'est propre et c'est commun de chacun avoir cette définition du libertinage parce que finalement, c'est pas cadré, que c'est des relations humaines et qu'on peut pas définir ces pratiques à des pratiques justement sexuelles et une idéologie, David?
C'est quand même par rapport à l'idée de normes. Je pense que vraiment la question des normes, voilà. C'est-à-dire, c'est par rapport à un système de normes. Alors, ça a été d'abord par rapport à un système de normes religieux. Aujourd'hui, la question, ce serait par rapport à quel système de normes? Est-ce que c'est le système de la conjugalité, comme je disais tout à l'heure, exclusiviste? Du coup, le BDSM, si c'est dans un couple exclusiviste...
Est-ce qu'ils sont libertins aussi dans cette
nouvelle
norme?
Voilà, mais par contre, si c'est en club avec d'autres personnes, etc., est-ce que ça rentre pas dans le cadre du libertinage? Donc, c'est plutôt par rapport à quel système de normes on se positionne sur, du coup, les pratiques sexuelles, mais ce qui veut dire aussi, quand même, sur le plan intellectuel ou philosophique... qu'on se positionne aussi par rapport à un système de normes. Donc, il reste quand même cette dimension philosophique, on va dire, elle n'est pas forcément élaborée conceptuellement, etc. Mais par le fait même de ces pratiques, il s'agit de transgresser, comme tu disais tout à l'heure, un système de normes.
Toujours en surimpression.
Mais je ne suis pas sûre que le ressort... En fait, on parle beaucoup de transgression et de rapport aux normes. Je pense que, par exemple, demain, le BDSM peut être la norme et ça s'appellera quand même le BDSM. Et je pense que ça dépend du ressort érotique. On parle par exemple, on va à une soirée avec Chris Chuchotement, il y a plein de gens différents. Et en même temps, on pratique le BDSM. Et je pense qu'il y a deux ressorts érotiques qui se mélangent, qui sont à la fois... le plaisir de l'humiliation, la violence, l'humiliation, qui sont des ressorts érotiques BDSM, et le ressort érotique du libertinage, qui est le voyeurisme, l'exhibitionnisme, l'échangisme, voilà, toutes ces autres pratiques sexuelles qui sont des ressorts érotiques du libertinage. Et quand on parle de polyamour, on ne parle même pas de sexualité. On ne parle pas de sexe. On peut tout à fait être asexuel et être amoureux de plusieurs personnes. Donc c'est là où je pense que le libertinage, et c'est pour ça que j'entends en tant que pratique sexuelle, tout comme le BDSM, c'est-à-dire ce sont un ensemble de pratiques sexuelles qui ont des ressorts érotiques bien précis. Et je pense qu'on peut pas dire que être homosexuel, c'est être libertin. On est homosexuel, mais il y a pas le ressort érotique ni de l'exhibitionnisme.
Ça l'est plus, en tout cas, ça change avec le temps, avec l'évolution des systèmes de normes.
Et du mot peut-être libertin, qui aujourd'hui en fait veut juste dire le ressort érotique qui regroupe différentes pratiques, souvent en rapport avec les autres, le voyeurisme, l'exhibitionnisme, l'échangisme, le mélangisme, le côte-à-côte.
Et le David Poujadisme, c'est quand tu es fan de David Poujada, ce qui est mon cas d'ailleurs, je kiffe. Il y a Potiro Masque qui nous dit dans la room, le libertinage est caractérisé par un esprit libéré qui peut pousser à une sexualité qui sorte des pratiques habituelles, et donc les courants de sexualité SM Kando, entre parenthèses, sont des courants de la famille de libertinage. Donc ça rejoint ce que tu disais, toi Thibaut, un peu comme dans une religion.
Mais en fait, avec ce que Flore vient de dire, on retombe sur cette question qu'on trouvait déjà au 19e siècle pour la question de savoir ce qu'on appelait perversion sexuelle ou pas. C'est-à-dire, c'est quoi le ressort, ou c'est quoi qui va faire qu'on va mettre sous une même catégorie tout un ensemble de pratiques? Alors, au 19e siècle, c'était pour les perversions. On cherchait quel était le point commun, et on avait trouvé que c'était le fait d'une déviation par rapport à l'instinct sexuel reproductif, et du coup, tout ce qui sortait de...
C'était dans la case, quoi. Ouais.
Tout ce qui sort... Parce qu'en réalité, lorsqu'on classait l'homosexualité, l'exhibitionnisme, le fétichisme, etc., dans les perversions, c'est quoi le rapport entre toutes ces pratiques, en fait? C'est quoi le point commun? Donc, le point commun qu'on avait trouvé au 19e, c'était de dire ça dévie d'un instinct sexuel génital. Bon. Mais là, du coup, donc, quand tu dis qu'il y a des pratiques qui sont du libertinage, le BDSM c'est autre chose, etc. Quel est, entre le voyeurisme, le fétichisme, qu'est-ce que tu as dit, l'échangisme, etc. Qu'est-ce qui fait point commun pour qu'on dise que tout ça... C'est le libertinage, et que par contre le BDSM...
Le libertinage, c'est défini en fonction des autres et du rapport à l'autre, là où le BDSM va jouer sur des ressorts érotiques qui se rapprocheraient du stress sexuel, entre guillemets. C'est des situations qui sont, entre guillemets, l'humiliation, la douleur pas modérée, les jeux de rôle où il y a un dominant, un dominé, c'est sur le lâcher-prise, la prise de pouvoir, tous ces jeux, entre guillemets, de pouvoir... Et le fétichisme en fait partie, puisque quand tu érotises la chaussure à talons, tu érotises un pouvoir, le cuir, bon, c'est le symbole du pouvoir. Bon, quand t'es dans les jeux de rapport de pouvoir du BDSM, quand t'es dans des jeux de rapport à l'autre, alors tu vas me dire, c'est peut-être une forme de transgression, parce qu'on est censé avoir qu'un seul partenaire, et quand tu as des gens qui te regardent, ou tu regardes des gens qu'on sort un petit peu de ce schéma mono classique. Là, tu as un ressort érotique qui va se former et dedans, voilà, quand tu as une multiplicité de partenaires.
C'est la multiplicité de partenaires qui, ouais,
qui ferait le ressort.
Le point commun.
De toutes les pratiques.
De, ouais, toutes les variétés du libertinage.
On a des commentaires super mignons dans la room, notamment pour toi, Thibaut. Il y a un oh, Thibaut. Voilà, les gens mettent un visage sur une voix suave et douce. C'est ce que tu veux, 11. Voilà, c'est Seb et Léonie de l'Orchidée à Béziers. On fait des gros bisous, les loulous. Voilà, il est content. Voilà, on s'est souvent au téléphone. Voilà, Thibaut, il rougit. Voilà, il est un petit peu timide. Il est un petit peu timide. Voilà, il y a beaucoup de questions, notamment une, tu pourras peut-être répondre, Christina. C'est, je retrouve un petit peu. En gros, c'est comment font les libertins pour ne pas être jaloux?
Alors,
c'est Joyce Ross qui nous dit ça.
Ça, c'est un ressort très très simple. Hein. C'est à partir du moment où tu considères que l'autre ne t'appartient pas.
Ouais.
Tout simplement. À partir du moment où tu te mentalises ça et tu te dis que je peux être amoureuse de quelqu'un, mais être amoureux n'implique pas d'en être propriétaire, d'en être l'unique destinataire. À partir de là, tu peux plus être jaloux. Tu peux pas être jaloux parce que être jaloux c'est vouloir garder pour soi quelqu'un ou quelque chose.
Il faut avoir une sacrée aussi confiance en soi pour ne pas être jaloux. C'est pas que...
Il faut avoir une sacrée confiance en soi, confiance en l'autre, mmh, et confiance en la relation qu'on peut avoir avec la personne, hein, tout simplement. Mais la jalousie, elle peut être amoureuse, elle peut être sexuelle, elle peut être amicale, elle peut être de plein d'ordres différents. Mais voilà, c'est à partir du moment où on estime que non, t'es à moi, t'es pas à quelqu'un d'autre, t'as pas le droit d'aller voir, voilà, quelqu'un d'autre.
Ouais, Thibaut.
Je pense que je suis vraiment d'accord avec ça. La première chose que les gens me demandent, alors que je suis pas libertin, mais que comme les gens savent où je travaille, et ils me posent la question, c'est mais comment font les gens, comment font les nanas, comment font les mecs pour accepter de voir leur conjoint avec une autre personne? Et une des premières choses que j'ai lues sur le libertinage et qui m'a vraiment fasciné, c'est qu'il faut dissocier la partie sentimentale de la partie sexuelle, physique. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut très bien coucher avec une personne simplement parce qu'il y a une attirance physique ou un feeling temporaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus son conjoint. C'est simplement que on essaye de chercher quelque chose à un moment donné, à un instant précis. Voilà, de la même manière qu'on peut sortir, boire un verre et avoir envie de s'enivrer d'alcool, et ben là on va s'enivrer d'un moment particulier, et ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre vie, ça veut pas dire qu'on n'est pas content de notre vie, simplement on a envie de voir quelque chose d'autre pendant un court instant.
Regarde Thibaut, on fait des after work, on boit de la bière, c'est notre kiff, on boit de la bière, mais des fois t'as envie d'un petit rosé. Et tu bois le rosé. Là, c'est vraiment une discussion de comptoir.
Et la bière,
comptoir,
c'est pas jalouse.
C'est pas pour ça que tu n'aimes plus la bière.
C'est exactement ça.
C'est juste que t'as envie de rosé là, parce que c'est cool. Voilà. C'est un peu ça ce que tu voulais dire, Thibaut.
C'est exactement ça.
J'ai schématisé un peu. C'était un peu grossier, un peu. C'était bas du front. C'était un peu, voilà, bas du front, mais c'est ça. Oui, Joseph.
Oui, je vous écoute. Et moi, je suis pas libertin non plus. Et j'ai envie de ramener ça un peu à l'histoire sur le long cours. C'est-à-dire que avant les lois, l'héritage, tout ça, c'était pour les enfants. Genre, je suis propriétaire d'une ferme, ça, ouais, ira à mon premier-né. Le problème, c'est qu'avant, pour savoir qui était ton enfant, il fallait que tu restes avec la même femme, parce que si tout le monde faisait l'amour avec tout le monde, comment diable pouvais-tu savoir quel enfant était le tien, avant la génétique, avant tout ça, ouais. Et donc, on vit le contre-coup sûrement très long de milliers d'années où, pour s'assurer que sa descendance était bien la sienne, on mettait les femmes sous cloche et on prenait la monogamie. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas juste en train de vivre la transformation lente, parce que c'est très long tout ça, voilà. Et puis c'est aussi la définition de qu'est-ce que la déviance, en fait, non, quelque part.
Celle-là, elle est pour toi, David.
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je voulais ajouter sur la question de la jalousie et du libertinage, c'est que j'ai observé qu'il y a des couples où il y a au moins une personne jalouse, pour laquelle le libertinage est en fait un moyen de contrôler d'une certaine manière les relations extra-conjugales. Plutôt que de prendre le risque que ça passe par l'infidélité, Je précise d'ailleurs que c'est pas parce qu'on est libertin qu'on est forcément infidèle. Je reviendrai peut-être après ouais. dessus, mais infidélité et extraconjugale sont pas synonymes. Mais en tout cas, j'ai pu observer voilà que ça pouvait aussi être un moyen de garder le contrôle d'une certaine manière. Et même de sélectionner avec qui le conjoint ou la conjointe va avoir des rapports sexuels, etc. Alors évidemment, il y a des rapports sexuels avec d'autres, avec un tiers, des tiers, etc. Mais ça reste d'une certaine manière sous contrôle. Et le ressort, là, de la jalousie, il est présent. C'est une manière de lutter contre cette angoisse générée par la jalousie.
Une autre question de Lavoine qui n'a rien à voir, pardon David, mais on pourrait revenir notamment sur la notion d'extra-conjugalité ouais. différent de l'infidélité. C'est pour toi, c'est là, Christina. Comment, mesdames, aimez-vous être abordée lors de soirées ou sur Wild ? Toi qui a une fiche femme seule sur Wild, Christina.
Alors, on est toutes différentes sur la façon de se faire aborder. Le point commun entre toutes les femmes, c'est un minimum de courtoisie.
C'est, qui induit aussi le respect.
Qui induit un minimum de respect. Mais quand on est libertin, ça fait aussi partie de ce qu'on est. C'est qu'on respecte les autres. On les considère comme des êtres humains et pas comme des vaches qu'on va chercher dans un pré. Donc, et encore, on peut respecter les vaches qu'on va chercher dans un pré. Ouais. Voilà. Je n'enlève aucun respect aux vaches.
Tu vas offenser beaucoup de vaches. Soir,
pardonnez-moi les vaches.
Franchement, c'est pas cool.
Pardonnez-moi les vaches. Mais ça va être très très différent entre les femmes. Certaines aiment être abordées assez frontalement, des hommes assez directifs qui prennent tout de suite le contrôle. D'autres, comme moi, vont préférer une approche plus soft. Plus intellectuel presque, sachant que ça garantit absolument rien. Après, il y a un minimum de courtoisie qui est dire oui, non, merci, au revoir.
C'est pas parce qu'on a échangé trois lignes que c'est bon, on va boire un verre.
Voilà, ou... ouais. Et c'est pas parce qu'on va aller boire un verre qu'on va coucher tout de suite.
Et c'est pas parce qu'on a couché ensemble qu'on a couché ensemble, ça n'a rien à voir.
C'est voilà.
c'est vrai.
Mais
c'est
la façon d'aborder va dépendre. Le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, c'est lisez les fiches que les hommes et les femmes écrivent. Quand on prend le temps d'écrire un minimum de choses, c'est pour être lu et pour être compris un minimum sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on veut pas. Après, mais et puis éviter d'aller chercher des gens qui sont pas du tout dans la même recherche que soi, quoi. Après,
ouais, je pense que Christina, enfin si je peux me permettre, m'a dit des choses très justes. Je pense que c'est spécifier les intentions de rencontre dès le départ, ça permet d'être beaucoup plus, même en tant que femme, parce que nous on fait beaucoup la sélection comme on a beaucoup de demandes, je pense. Depuis que je suis inscrite sur Wild, j'aime aussi. Et c'est vrai que être clair sur les intentions de rencontre, tout de suite quand on est une femme, c'est rassurant et on va plus s'accrocher avec des gens qui sont clairs qu'avec des gens qui on ne sait pas trop. Salut, ça va? Tu fais quoi? T'es où? Voilà.
Il sert à ça justement le profil et la description. Oui. C'est pour mettre plein de choses.
C'est justement pour ça qu'il est là. C'est pour expliquer un petit peu qui on est, un petit peu ce qu'on cherche. Après, ça va dépendre de la personne qu'on a en face. Hein. C'est la discussion qui va permettre de savoir si on a des points communs ou pas, ou si on a des envies de se rencontrer ou pas.
Hein. Après, c'est pas facile d'aborder. C'est pas facile d'aborder.
Jamais.
Effectivement, tu disais qu'il y a des personnes...
Et on le sait, nous, les femmes, parce qu'on aborde rarement.
Ouais. Il y a des personnes qui aiment bien être abordées de manière un peu cash, un peu directe. Il y en a plus en douceur, peut-être, ou peut-être un peu plus intellectuel, comme toi, tu aimes Christina. Et c'est pas évident, quand on est, je prends le cas d'un mec sur Wild, d'aborder une personne, parce que des fois, on est trop doux. On va se faire rembarrer parce que c'est pas du tout ce que je cherche. Donc, du coup, à une autre personne, tu vas être hyper cash et on va te dire, mais non, mais tu fais quoi? Respecte un minimum.
Mais si là,
c'est pas dur.
Là, pour le coup, il y a une question aussi de se respecter soi-même. Il faut être clair dans ce qu'on a envie.
Oui, bien sûr.
Et à partir de là, quelle que soit la personne qu'on va aborder, on ne peut pas changer notre façon
d'aborder.
Tu t'adaptes pas en fonction des personnes qui sont en face de toi. Il faut que tu restes toi-même. Ça aussi, c'est important. Il faut rester soi.
Alors, on me dit aussi, il y a des femmes pas très cordiales. C'est Tony Fitti qui dit ça.
C'est comme pour les hommes.
Mais comme il y a pour tout.
Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couples. Certains sont très agréables, d'autres sont pas du tout agréables.
Après, je veux bien croire que les femmes soient peut-être même moins agréables que les hommes, parce que dans un monde où l'offre et la demande n'est pas tout à fait la même, les femmes peuvent se permettre d'être désagréables et d'avoir quand même peut-être...
Je sais pas si tu peux te permettre d'être désagréable.
Je trouve qu'elles n'ont pas à se le permettre.
Non.
Ah oui, ça c'est clair. Ah non, mais ça ne justifie en rien.
Non, non. Il y a un minimum de respect à avoir envers les gens. Un non merci est relativement bien compris dans le milieu du libertinage. Donc,
clair.
Tu voulais dire quelque chose, Thibaut ?
Quand on voit, moi, du coup, comme je suis sur le site et qu'il faut que je crée des fiches et que je fasse des choses, quand tu vois le nombre de personnes qui vont réussir à te contacter quand tu crées une fiche femme en même pas une heure de temps, parce que tu vas faire un test.
Sans photo, tester, sans description, sans rien.
Exactement, tu vas rien mettre dedans, tu vas même pas mettre un poids, tu vas rien mettre, tu vas mettre, même tu vas pousser le trait, tu vas mettre 150 kilos, 1m50. Quand tu vois que tu reçois 15 messages en une heure, je comprends que certaines femmes avec des toujours le coucou ça va
les copier-coller, ouais.
CV point d'interrogation, moi je suis désolé, je ne réponds pas à ce genre de message.
On en revient à ce qu'on disait, il y a un manque d'effort qui est pas très agréable,
ouais. Même moi en tant qu'homme seul, je reçois des messages des mêmes personnes qui me recontactent à plusieurs reprises alors que j'ai un profil qui s'appelle Thibaut Wild où c'est marqué je ne rencontre pas, je suis de l'équipe Wild, salut t'es dispo.
Ben oui.
Comment tu es cordial la première fois quand c'est la troisième fois que la personne te renvoie le même message et qu'il fait pas d'effort, la troisième fois tu ne réponds pas.
Et puis généralement tu bloques. Il y a des outils quand même sur le site qui permettent de se prémunir de ça.
Avant de faire une petite pause, quelques questions encore. Comment on fait, c'est Coquin30 qui nous dit ça, comment on fait quand il a des fakes? Ben, c'est très bien, c'est très simple. En fait, tout simplement, vous faites remonter au support et on s'en occupe. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ouais, il y a beaucoup de fakes sur le site, mais on s'en occupe très très rapidement. Alors, effectivement, des fois, vous pouvez en voir, mais on les élimine très 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 vite. Et comme personne n'est parfait, des fois, ça peut traîner, c'est sûr, mais on n'a aucun intérêt, nous, à laisser des fakes sur le site.
Mais les fakes sont un phénomène de génération spontanée.
Oui, aussi. Et puis alors déjà, c'est pas propre à Wild. Et puis,
non, c'est propre aussi à tous les sites, même Facebook, partout.
Un site de rencontre n'a aucun intérêt à laisser des fausses personnes et des fausses fils sur leur site.
Allez, coucou, ça va sur Facebook.
Allez, coucou, ça va, ouais. Moi, j'ai des meufs trop jolies, trop fraîches qui m'invitent sur Facebook et en fait, c'est des fausses personnes. La première fois, j'ai fait « Wow !» La deuxième fois, j'ai fait « Bon, allez. »
C'était Robert derrière.
Je sais pas qui est derrière, mais c'était pas la personne. En
général, c'est de la publicité d'ailleurs.
C'est « Viens voir mes photos coquines » et en fait, pas du tout.
C'est ça, c'est que des choses.
C'est ça, il y a beaucoup de... Voilà, sur Wild aussi, ouais, on va sur WhatsApp et tout, machin. N'allez pas, c'est des conneries. Mais on prend ça sérieusement et on les élimine le plus souvent possible. Tu voulais dire encore un truc, Thibaut?
Je voulais juste rajouter une chose que j'arrête pas de répéter, même à toutes les personnes avec qui je suis en contact, c'est ils nous disent oui, c'est pas notre boulot de signaler les fausses fiches, c'est à vous de les détecter. Il faut comprendre que sur Wild, il y a des milliers d'inscriptions tous les jours, et quand je dis des milliers, c'est que je veux pas le quantifier exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas assez nombreux ici pour faire toutes les fiches une par une, pour vérifier les profils. On a besoin aussi, on est une communauté, on a besoin de coups de main de chaque personne pour dire « Ah bah oui, mais regardez, cette fiche, on a un doute, signalez-les nous et on va gagner du temps et ça va nous permettre d'assainir aussi les faux profils qui passent au travers des mailles du filet. Et il ne faut pas penser que, parce que ce n'est pas votre travail, que c'est le nôtre, qu'il ne faut pas nous aider. Nous, vous êtes très reconnaissants de nous filer des
coups de main. C'est exactement ça, on est une communauté et il y avait beaucoup d'inscriptions avant les campagnes de pub. Hein. Je tenais quand même à le préciser, ça n'a rien changé. Mais oui, tu as raison, c'est une vraie communauté, Thibaut, et c'est important et on est là aussi pour s'entraider. Et on ne sera jamais assez nombreux pour faire de la modération. Même si on embauchait 10 personnes, il y aura toujours des fakes sur le site, c'est mathématique. On n'a pas le choix. Donc on compte aussi sur vous pour faire remonter ces informations-là.
C'est comme si tu vois quelqu'un voler un sac à main dans la rue et que tu dis oui, mais c'est pas à moi de courir après le voleur, c'est à la police qui a 10 rues de là de faire son métier et de se dépêcher d'arriver pour aller courir après le voleur. Si tout le monde intervenait, on arrêterait plus facilement les voleurs et l'intervention générale permet aux choses d'aller beaucoup plus vite.
Évitez là, quand même la Kalachnikov tout de suite.
Ouais, on va essayer. Oui, le permis de port d'armes.
Ouais, c'est chaud. C'est
non,
chaud
non,
quand même.
On a dit arrêtez, on n'a pas dit tirer dessus. Hein.
Et Coquin 30 qui nous remercie de pour la réponse. Bah écoute, on est là pour ça. Il y a l'avoine aussi qui nous dit la bisexualité masculine semble déranger les femmes. Est-ce que je me trompe?
Alors,
Christina, ça te dérange toi les bisexuels
non,
masculins?
Non, du tout. Je sais que ça fait partie de certains tabous.
Là, on est sur
exister,
un tabou de fou. Ouais.
Mais la bisexualité masculine pour les hommes ou pour les femmes, elle est parfois mal vue en effet.
Pourquoi?
Maintenant, parce que ça. Ça donne une image un peu dérangeante de l'homme. On ne sait pas trop comment
le prendre. On est encore dans l'inconscient, l'homme fort, hétérosexuel.
Voilà, l'homme viril, voilà. Maintenant, j'estime moi qu'un homme bisexuel est un homme avant tout. Voilà. Il a ce côté-là où il aime autant la féminité que la masculinité. Et voilà, c'est juste. Moi aussi, je suis bisexuelle. Hein. J'aime les hommes, j'aime les femmes. Personne ne me jette la pierre pour
et
ça.
Nous, on t'aime, Christina. J'en
moi
profite,
aussi,
une
t'aime,
une
Benjamin.
Femme seule ici, j'en profite, attends.
Moi aussi, je t'aime, Benjamin.
C'est gentil, ça droit au cœur. On a des super messages, Love Couple 67. Avec un site comme Wild, il faut être reconnaissant d'avoir un vrai réseau et surtout un réel suivi. Bah, merci. Merci, ça fait plaisir de voir des jolis commentaires, vraiment. On va se retrouver dans un instant avec tous nos invités, David Simard, Christina et puis Thibaut qui travaille chez nous. Flore, il y aura les infos intox. Mmh. On aura Philippe Rigaud aussi par téléphone qui est avec nous quelque part en France. J'ignore où il est. On pourra faire un petit jeu pour savoir où il est. Il est sexologue, il a sorti une tribune dans Le Monde. On ne va pas forcément parler que de ça, c'est la tribune en rapport à l'autre tribune aussi du Monde sur le droit d'importuner,
la liberté
d'importuner les femmes. Et puis on va surtout parler d'un livre qu'il a écrit sur le libertinage et l'évolution du libertinage contemporain. Voilà, on se retrouve dans un instant, on est ensemble jusqu'à 23h, on fait des gros bisous et si vous avez encore des questions à nous poser sur Wild, sur le libertinage, bah c'est maintenant qu'il faut le faire. À tout de suite. Allez, de retour dans Wild de l'émission, on est ensemble jusqu'à 23h en simultané sur Facebook Live et wild.com, j'espère que vous allez bien. On est avec Thibaut qui s'occupe des partenariats avec les clubs chez Wild. Rebonsoir Thibaut, Christina qui est abonnée plus Shadow. Il n'y a rien de spécial, hein, tu payes ton abo, mais c'est juste que voilà, on se connaît bien. Et puis, voilà. Et puis David Simard avec nous, philosophe, sexologue, tout le truc en hog aussi, tu es ventriloque aussi.
C'est vrai.
C'est pas en hog du tout. Voilà, on parle du libertinage ce soir. Est-ce que le libertinage évolue? Voilà, et puis Flore aussi, t'es avec nous ce soir. Il y aura les infos intox dans quelques minutes. On va appeler Philippe Rigaud aussi, qui lui est sociologue. On va parler avec lui de l'évolution du libertinage. Il y aura aussi le jeu de la capote, parce qu'on va gagner plein de choses aussi. Des jeux, plein de jeux. Parce que nous, on est très jeux, finalement, vous allez voir. Vos questions dans la chatroom, c'est maintenant, à la fois sur Facebook et sur wild.com, sur comment le libertinage évolue. Est-ce que vous, depuis que vous êtes libertin, vous avez eu des changements? Si vous avez des questions, vous avez envie de vous lancer, notamment ceux qui nous écoutent sur Facebook, qui ne sont pas encore sur Wild, qui se posent plein de questions, on en a aussi, donc n'hésitez pas. Moi j'avais une petite news, j'ai vu ça parce que moi je lis Cosmopolitan.
Ah.
Ouais, je lis Cosmopolitan, vous n'êtes personne pour me juger, d'accord?
Non, on ne juge pas.
Qu'est-ce qu'il y a?
Moi j'en bois.
De quoi? D'accord, très bien. Thibaut est très...
C'est pire que la bisexualité, hein, lire Cosmopolitan, je te préviens.
Parce qu'on parlait de bisexualité juste avant la pause. Non, alors c'est vrai que dans le lit, il y en a qui ronflent. Il y en a qui piquent la couette. Et ben, il y en a qui font l'amour en dormant. Ça s'appelle la sexomnie. Je ne sais pas si vous connaissez. On appelle ça aussi le somnambulisme sexuel. Quoi?
Ou la meilleure excuse de tous les temps.
L'alibi foireux, ouais.
C'est exactement ça. Ça concerne quand même 4% des femmes et un peu plus 11% des hommes. C'est bizarre, ça, dis donc. Alors, comment ça se traduit?
Mais chérie, je dormais.
Mais là, c'est...
Ça va.
Retire ton doigt.
La naissance de Jésus, tu sais.
Donc, chez les femmes, ça se manifeste, c'est hyper doux. C'est par de la masturbation nocturne.
Ah oui, voilà,
les filles se caressent et elles jouissent. Personnellement, moi, j'ai déjà entendu ma femme prendre du plaisir en dormant.
Est-ce qu'elle dormait?
Elle dormait.
Oui.
Ouais, elle dormait.
Elle rêvait peut-être?
Oui, elle rêvait, j'espère, à des bourrées, à des trucs hyper cool. Alors, par contre, chez les mecs, c'est plutôt initier un rapport sexuel. Donc, on est sur l'arnaque, tu disais, Joseph.
Le délit d'initier.
C'est-à-dire que sur les 11%, il y a peut-être 50%, même un peu plus, qui sont de faux alibis, en fait.
C'est ça. Donc, en gros, on saute sur sa partenaire. Si on met des fingers la nuit, bah, c'est pas du somnambulisme sexuel, forcément. En tout cas, voilà, c'est à lire dans Cosmo, la sexomnie. Voilà, sachez-le, ça t'est déjà concerné, toi?
Je crois pas.
Non,
bah, peut-être toi, que tu dormais.
Thibaut, est-ce que tu te branles en dormant?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé de commencer à me chauffer avec ma copine et de qu'on se réveille et de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, qui chauffait qui là, qu'est-ce qui se passe. Bon, finalement, allez hop, c'est parti. Hein. On en profite, on est chaud tous les deux, donc on en profite, mais de se chauffer, on est de dormir à moitié.
Ah ouais, déjà, de faire l'amour un petit peu...
Ouais, mais ça, c'est la baisse du dimanche matin, où t'as pas envie de te réveiller, mais...
Non, plutôt en pleine nuit, 3-4 heures, vraiment, tu sais pas trop pourquoi. Bah, je pense qu'en fait, il y a eu le début, t'étais en une espèce de sexomnie, et puis après, bon, bah voilà.
Ça m'arrive avec mon chien, moi. Ah
non. Et bah tu vois, j'ai une demi-molle. Je pensais que ça allait me rebuter. Au début, j'ai eu un rejet quand t'as sorti ta vanne. Et un petit peu, c'était un peu excitant. Mais voilà, la sexomnie. Bon, si vous penserez à tout comme ça en dormant. On va continuer à parler du libertinage, de l'évolution du libertinage. Peut-être que tu auras la réponse à cette question qui revient souvent en ce moment. C'est quoi un faux libertin?
Bonne question, j'aimerais bien le savoir aussi.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un faux libertin.
Peut-être celui qui se dit libertin et qui ne lit pas, qui est là juste pour... Je sais pas, franchement, je comprends pas. Ceux qui... Alors après, on peut faire
c'est
la distinction.
C'est manque de respect, peut-être.
Ça, c'est propre à chacun, c'est pas du libertinage,
c'est voilà, c'est à mon avis, si on n'est pas très, si on n'est pas très sympa en tant que libertin dans la vie comme de tous les jours, on l'est pas forcément non plus. Hein. Mmh. Mais non, je et puis les libertins sont pas forcément tous très corrects non plus, donc c'est pas forcément un critère. Il y en a qui font la distinction entre libertin et queutard.
Bah alors après c'est comme le sketch des Inconnus, il y a le bon libertin et le mauvais libertin.
Mais voilà, oui, mais je pense
si
que
le socle c'est pardon, c'est le socle, c'est juste la notion de respect, c'est pas propre au libertinage, c'est de l'éducation.
Ouais. Mais je suis vraiment incapable de répondre à cette question parce que je ne sais pas si certains ont la définition.
Allez-y,
qui me la donne.
Hein, dans la room, un faux libertin c'est un mec qui s'est trompé de boîte. C'est pas vrai.
Ah. Et il a pris la boîte de Weetabix et pas la boîte de Cheerios, je sais pas.
Je sais pas, ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi un faux
enfin,
libertin.
Plutôt la boîte pas. De Weetabix, plutôt.
Oh.
Ça devient gênant.
Encore une fois, comme la semaine dernière, c'est dit en toute humilité.
et en même temps, ça me plaît, Joseph. C'est quoi un faux libertin pour toi, Thibaut?
Je ne sais pas ce que c'est un faux libertin, mais j'ai quelques idées de faux libertins. Notamment, je dirais les hommes qui vont être infidèles, qui vont avoir des relations extra-conjugales, qui vont aller en club sans leur femme, qui vont aller coucher avec la femme des autres. Ou avec des femmes, et qui, de l'autre côté, n'accepteraient pas que leurs femmes fassent pareil. Je pense que ça rentre dans vraiment le stéréotype du faux libertin, parce que c'est... Voilà, il faut accepter que si on est prêt à aller voir ailleurs, il faut accepter que sa moitié fasse la même chose, je pense.
Bah tu vois, il y a Libertinum qui nous dit là sur Wild, un faux libertin, c'est celui qui arrête dès qu'il est en couple. Donc je crois qu'il y a autant de définitions de faux libertin que de libertin et que de variétés de pommes dans la nature. je pense que le socle.
Là, on rentre dans les poires. Hein.
Voilà, on rentre dans les poires. Non. David, voilà le socle commun du libertinage pour ces gens-là, c'est quoi? C'est le respect, c'est tout.
Il y a plus. Alors le respect, effectivement, c'est pas propre au libertinage.
Bah ouais.
Par ailleurs, un libertin célèbre, en tout cas considéré comme tel, du coup, on pourrait demander si c'en était un vrai ou pas. Sade. On peut pas dire qu'en termes de respect,
on voulait l'inviter, il n'était pas.
Ouais, il était. Il était encore en prison.
Ouais,
il a quand même passé une bonne partie de sa vie en prison. Donc, on peut pas dire que c'était quelqu'un au niveau du respect qui était un exemple.
Pauvre Justine.
Oui, alors bon, ça c'est les livres, mais après il y a aussi ce qu'il a fait vraiment et qui lui a valu de longues années de prison. Sur des petites filles qu'il a séquestrées, enlevées, séquestrées, etc. Je pense pas que, en termes de respect, on
y a mieux.
Puisse ériger ça en modèle. Mais en fait, sur les, c'est marrant la réponse là de dire le faux libertin, c'est celui qui s'arrête quand il est en couple, parce que du coup, ça laisserait entendre que pour être un vrai libertin, il faudrait que ça soit une essence. Que ce soit une nature d'une certaine manière.
Tu n'es libertin,
pas,
quoi.
C'est ça. Ou une fois que tu le deviens, tu n'en sors plus. Enfin, donc, comme une espèce de nature. Je pense qu'on peut parfaitement avoir dans sa vie des moments de vie libertine, des moments où on va être plus classique en couple,
exclusif,
ouais. Etc. Donc, c'est plutôt, à mon avis, quelque chose qui peut se. Qu'on peut pratiquer ou ne pas pratiquer, pratiquer à certains moments, plus pratiquer à d'autres, plutôt qu'une espèce de définition identitaire, une nature, une essence de la personne qui ferait que ce qui est vrai, c'est ce qui dure, c'est ce qui est établi de manière inamovible.
C'est vraiment chouette, hein, les commentaires qu'on reçoit dans la room. Il n'y a qu'aucun 30 qui nous dit jamais sans l'autre, ça c'est le vrai libertin.
Jamais... Mais quand on n'en a pas d'autres. On fait quoi
mais
alors?
C'est ça, on peut être libertin tout seul, enfin,
mais
au
voilà.
Bout d'un moment.
Non, puis on peut aussi être libertin en couple libre. On
voilà.
Peut être un couple et on parlera
chacun
des.
Chacun définira ses propres règles.
Mais je pense que c'est pas mal la définition quand même de Thibault. Le faux libertin, c'est quand même celui qui s'accommode des normes sociales pour retenir son partenaire un peu à la maison, mais qui n'y adhère en fait pas du tout parce que ça l'arrange bien de le pratiquer dans son coin. Donc c'est vrai que. Oui, là-dessus, moi, je rejoins peut-être Thibaut sur ce faux libertin.
On parlera avec
on
toi d'ailleurs.
On parle de l'idée de tromperie dans ces cas-là. Oui, mais c'est aussi de envers se dire les autres et envers son compagnon.
D'hypocrisie.
D'hypocrisie. Mais oui, ouais. Mais donc c'est un faux libertin, puisque c'est un libertin hypocrite.
Voilà.
Mais ça me plaît bien, ouais.
On parlera avec toi des pratiques du libertinage tout à l'heure dans tes infos intox, parce qu'on peut aussi faire du 2 plus 2, être libertin, ça n'a rien à voir, c'est pas... C'est très particulier. Enfin, mais... Chacun a sa définition, quoi.
La première dingue. Chose qui m'a marquée quand je me suis intéressée au libertinage, c'est que il était extrêmement centré sur le couple. Tout ce qu'on pouvait trouver en termes de littérature, d'information ou de choses comme ça était
centré sur le couple.
Hétéronormé.
D'ailleurs, nous, on fait notre mea culpa. Il y a encore un an, on parlait pour couple libertin, réseau social pour couple libertin.
Je sais. Je me suis mise en colère plusieurs fois.
Et t'as bien fait. Et comme quoi, on écoute la communauté. Les gens disent non, ils nous écoutent pas du tout. Si. Et vous aviez raison.
Et bravo d'avoir fait ce pas. Parce que effectivement, je suis célibataire, je suis libertine. Et j'ai pas besoin d'avoir un homme pour être libertine.
Qu'est-ce qui se passe?
Benjamin, me regarde pas comme ça.
Qu'est-ce qui nous arrive? Thibaut? Non, c'est vrai, du coup, il y a plein de définitions, mais c'est ça aussi qui est intéressant, qui est passionnant dans le libertinage. Donc, continuez, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. D'ailleurs, il y a des gens qui disent ouais, mais c'est facile d'être libertin en tant que célibataire.
Pourquoi? C'est pas plus facile que quand on est en couple?
Bah si, parce qu'on va te dire, bah allez, partage ta femme. Ou partage ton mari.
Ouais, mais tu peux venir avec une amie, et puis très bien, enfin...
Parce qu'il y a dans cette notion aussi, pour beaucoup, dans le libertinage, de dépasser la jalousie. Donc il y a aussi cette fierté aussi là. Donc du coup, qu'ils opposent au libertinage peut-être plus...
Je pense qu'ils parlent plutôt surtout de ce qui se faisait avant en termes de libertinage, qui était quasi exclusivement de l'échangisme. Il n'y a pas très longtemps encore, les clubs s'appelaient des clubs échangistes et non des clubs libertins. Ouais. Donc je pense que les codes, justement, se sont construits à partir de ça. Là, les limites changent, les bordures changent et les libertins s'affranchissent justement de ces codes-là aussi. Et je trouve que c'est intéressant de recadrer ou de revoir justement ces règles. Et c'est vrai que le fait de ne parler que des couples, et en plus des couples hétéronormés. Alors si, madame est bi, ça va. Mais c'était à peu près tout. C'était à peu près tout de ce dont on parlait. Donc il y a une question d'ouverture. D'ouverture aux autres, d'ouverture aux libertés des autres. Et voilà.
On en revient à cette question du système de normes par rapport auquel on se situe. Donc si c'est le couple hétérosexuel exclusiviste, le libertinage va être tout ce qui va se décaler de cette normativité-là. Si c'est au contraire, ce n'est pas forcément le couple, mais on peut être célibataire et libertin. Du coup, c'est plus la notion du couple, mais ça va être plutôt de certaines pratiques, d'aller dans certains endroits, d'aller, etc. Ce qu'on ne fait pas, je dirais, habituellement quand on est célibataire. Ouais. Donc, ça va être par rapport à ce système de normes-là. On en revient toujours à quel système de normes, par rapport à quel système de normes on se positionne pour finalement revendiquer une certaine forme de liberté, parce que c'est bien ça le libertinage.
Et je crois que double H sur Wild a tout résumé finalement. Chacun le vit à sa manière et ses envies, on est tous différents. Voilà.
Exactement.
Non, c'est vrai, il a complètement raison.
C'est toujours l'histoire des pommes. Des pommes.
On est toujours dans les pommes. Allez, Joseph, on va appeler Philippe Rigaud qui nous attend au téléphone. Il est sociologue. Il a sorti un livre qui s'appelle Le Fragment sur le libertinage contemporain. Vous pouvez le trouver un petit peu partout, notamment à la Fnac. Très belle tunique, Flore.
Merci.
Elle est incroyable. Je ne te regarde pas trop parce que je suis assez sensible ce soir. Les tuniques, ça me rend fou de ouf. Thibaut, c'est quoi qui te rend fou de ouf, toi, les compensés aussi, les compensés. Pouah, les chaussures compensées. Tu mets ça avec des chaussures compensées?
Je
fais pas l'émission.
Non,
parce que je suis respectueux. Sauf si tu m'envoies des signaux de fou. Thibaut, c'est quoi qui te rend fou, toi, au niveau vestimentaire chez un homme ou chez une femme?
Chez une femme, je dirais jupe talon, bas. C'est vraiment le basique. Après, je suis très cliché sur ce coup-là. Et chez les hommes, c'est le costume trois pièces que je trouve très old school, mais quand c'est bien porté, c'est tellement beau.
Avec le petit gilet à l'intérieur, c'est ça ?
Exactement.
Ouais, c'est un peu classe. Quand c'est bien porté, bien taillé, c'est propre.
Oui. Ça donne un charme fou.
David, toi, qu'est-ce qui est le vêtement qui te... Franchement, c'est cool.
Ouais, les bas. Les bas,
les bas,
ouais,
les bas ouais.
Je suis classe. Ouais, on peut être philosophe et être complètement conditionné par les stéréotypes.
Mais parce que c'est beau. Mais parce que c'est beau.
Mais au moins, on le sait.
Christina. Alors qu'il y a déjà des gens qui jouent au jeu de la capote, c'est pas lancé encore.
Moi, ce serait l'élégance de la chemise ouverte avec une veste.
Alors attends.
Va chercher la veste, Benjamin. Va chercher la veste. Il te manque la veste, là. Mais... Non, pas trop ouvert non plus.
Ah, merde, trop ouvert,
c'est
ça.
De l'élégance.
Ah merde,
ça
c'est vulgaire.
Voilà,
ah,
là c'est vulgaire. D'accord, okay. Là c'est vulgaire.
Ah merde, putain, fais chier. Ça, c'est
le
vulgaire aussi.
Le col ouvert qui laisse apparaître le...
D'accord.
C'est millimétré.
Là, voilà. Poison, voilà. C'est un gros boulot. Hein.
Pas trop de boutons, quand même.
Et toi, Flore, qu'est-ce qui te fait kiffer au niveau des vêtements?
Oh, bah, la chemise bleue, le jean gris et les baskets et les Stan Smith blanches aux pieds, voyons.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, putain.
Oh, putain, il se passe quelque chose.
Joseph me dit qu'on est au téléphone avec Philippe Rigaud. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah, très bien, merci.
Où est-ce que vous êtes géographiquement?
Alors là, je suis en Picardie pour quelques jours en famille.
Ah, très bien, c'est chouette la Picardie. Je vois parce qu'on raconte un peu nos vies dans cette émission. Philippe, moi je viens de la Picardie aussi, de l'Oise précisément.
Ah, d'accord, bon, bah, moi de l'Aisne.
Ah, très bien, ça se passe bien.
Très bien, oui.
Donc je plaisante. Est-ce que vous avez suivi le début de cette émission?
Du tout.
Du tout, d'accord, très bien. Alors, on va tout reprendre depuis le début. Comment? Bonsoir à tous, bienvenue. On est ensemble jusqu'à 23h. Non, on parlait de l'évolution du libertinage et vous avez sorti un livre, un fragment sur le libertinage contemporain. Quelle est votre histoire et votre rapport au libertinage, pour commencer?
Alors, on va dire que moi, mes travaux sociologiques ont toujours porté sur les marges culturelles. Le fétichisme, les subcultures gothiques... Voilà, je suis quelqu'un de très conventionnel, mais j'aime bien écrire sur des sujets qui sont un petit peu moins. C'était un peu punk, même si c'est pas visible de l'extérieur.
D'accord.
Voilà ce qui m'a amené à m'intéresser au libertinage, parce que ça reste quelque chose qui est encore assez subversif, même si c'est de mieux en mieux accepté.
C'est toléré ou c'est accepté?
On peut dire que c'est accepté. Globalement, oui, on peut même dire que c'est un petit peu envié, hein, de plus en plus. C'est peut-être un petit peu ambivalent. Enfin, il est rare aujourd'hui que des gens énoncent une critique radicale, une dénonciation du libertinage. Au contraire, les gens laissent plutôt entendre une certaine fascination, un certain intérêt.
Ça fait encore fantasmer.
Ça rentre dans les mœurs, oui. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde pratique, bien entendu. Mais on va dire que potentiellement, il y a peut-être pas mal de gens qui seraient assez prêts à franchir le pas.
Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant avec Fragment sur le libertinage contemporain en écrivant ce livre? C'était quoi le but?
Le but était déjà de donner à connaître au plus grand nombre un univers qui est assez mal connu, ou qui fait fantasmer, mais dont on n'a pas forcément une idée très précise. Voilà, oui, c'était faire un petit peu mieux connaître, et puis si possible, en n'étant pas dans l'anecdotique, mais en essayant d'apporter un petit fond théorique quand même.
Et c'était quoi votre regard sur le libertinage avant de débuter ce livre?
Alors, moi, quel que soit mon objet d'étude, j'ai un regard bienveillant. Je porte pas de jugement moral, parce que j'ai pas à le faire en tant que sociologue, que par tempérament, c'est pas dans mes habitudes. On va dire, mais enfin, c'est peut-être un vœu pieux, que j'avais un regard neutre. Et en tout cas, j'ai essayé de conserver cette neutralité.
Et comment vous avez commencé? Vous êtes rendu dans les clubs? Vous avez eu des entretiens avec des libertins? Comment vous avez approché justement ce milieu-là?
Tout d'abord, j'ai fait une observation la plus large possible des différents profils sur un certain nombre de sites, dont le vôtre, bien entendu. Voilà, pour faire une première approche sociologique en termes de classe d'âge, notamment. Et puis ensuite, oui, je suis rentré en contact avec un certain nombre de libertins que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait des entretiens, qui m'ont ouvert d'autres portes, et j'ai essayé de rencontrer la plus grande diversité possible de pratiquants. Alors, d'ailleurs, je le précise, hein, dès le début de mon bouquin, d'un point de vue purement statistique, moi, je prétends rien dire. J'ai plutôt essayé de donner une image de la diversité des parcours, des pratiques, sans prétendre dire, bah voilà, il y a tel pourcent de ceci, tel pourcent de cela. C'était pas mon objet.
Une petite question. Dans votre aventure, dans le libertinage, quel est le constat qui vous a le plus, vous, étonné ?
Alors, ce qui m'a étonné, en fait, pas vraiment, c'est qu'il y a très, très peu de femmes en solo.
Merci d'être là, Christina.
Donc, ça dit quand même que, voilà, il y a encore un interdit, même dans des milieux qui sont assez open. Voilà, une femme seule, c'est pas très fréquent.
Et puis pourquoi, voilà, selon vous?
Pardon?
Pourquoi? Pour quelle raison? Enfin...
Bah, je crois que même dans des milieux larges d'esprit, il y a encore un fond de patriarcat. Moi, souvent, j'ai entendu des hommes dire qu'ils étaient les chevaliers servants de leur accompagnatrice. Un petit peu... Voilà, pour la chapeauter quand même. Donc il y a l'idée que la femme, elle a besoin d'être protégée.
Accompagnée, d'être... etc. Prise par la main.
Servie, oui.
Et puis bon, peut-être qu'il y a un certain nombre de femmes qui n'osent pas franchir le pas toutes seules. C'est aussi une hypothèse. Mais par ailleurs, on peut rencontrer des libertines convaincues, qui ont une pratique assez intense, hein. Mais numériquement, ça reste relativement faible.
Ça a toujours été ça, David ?
Je ne sais pas, je n'ai pas fait l'historique genré du
libertinage.
Du libertinage, mais par contre, c'est cohérent avec l'idée, effectivement, enfin, les représentations sociales qu'on se fait de la sexualité selon le sexe, justement, où quand même reste encore assez présent, même si évidemment ça évolue, mais l'idée que une femme, sa sexualité, elle doit être sentimentale, affective, donc plutôt dans le couple, et en plus avec cette idée, il y a une étude qui commence à dater un petit peu maintenant, qui a une grosse dizaine d'années, disons, qui avait été faite par l'INSERM, l'INED. Sur la sexualité en France et qui dans lequel ressortait que encore à cette époque-là, une grosse majorité des hommes et des femmes considéraient que par nature les hommes avaient plus de besoins sexuels que les femmes. Mmh. Donc c'est encore quelque chose qui alors ça c'était il y a plus de 10 ans, je pense que ça a encore un peu évolué depuis, mais voilà, c'est quelque chose qui est encore quand même très présent.
Oui, puis la question c'est aussi, est-ce que c'est les femmes qui se censurent d'elles-mêmes ou est-ce que c'est les hommes qui ont une influence sur les femmes?
Bon, il y a les deux.
Les deux, hein.
Est-ce que ce serait à dire que finalement la vraie féministe, ou en tout cas une des féministes, c'est la libertine? Parce qu'elle s'affranchit justement de cette chape de patriarcat qu'on lui impose.
Qui assume ses choix, qui n'a pas besoin d'être chaperonnée par un homme. Et justement, elle assume le fait que bah, la femme peut avoir autant de désirs sexuels que l'homme, qui, comme ça vient d'être dit, est encore une idée que tout le monde n'est pas prêt à admettre.
Philippe, après votre travail, est-ce que vous arrivez à faire le prototype du libertin ou de la libertine ou c'est pas possible ?
On va dire que c'est pas possible, mais bon, puisque vous insistez, je vais quand même essayer. voilà, on va dire que chez les hommes, il y a deux catégories, hein, vraiment pour y aller à la serpe, hein. Il y a les queutards, pour qui le monde du libertinage, c'est un énorme marché de femmes disponibles.
C'est Disneyland, quoi.
Mais c'est pas nécessairement des vrais libertins, dans ce sens où il n'y a pas l'envie de jeu, l'envie de raffinement, l'envie d'expérimenter.
C'est un besoin, quoi.
Et donc, une deuxième catégorie d'hommes, c'est alors ce que j'appellerais les vrais libertins, entre guillemets, hein. Je ne suis pas là non plus pour donner des palmes, mais quand même des hommes qui sont inventifs, qui sont plus subtils, qui ont peut-être un érotisme plus cérébral. voilà, c'est vraiment les deux grandes catégories, hein, le cutard fou et celui qui s'approche davantage d'une dimension, créatrice, hein, tout simplement. Et cette dimension, elle parle davantage aux femmes. Ça, c'est évident. Même une femme qui a envie de gang-bang, ben, son plaisir, c'est pas seulement de s'offrir à une huitaine d'hommes, c'est qu'il y ait une mise en scène, qu'il y ait une scénarisation, donc elle est davantage dans l'intellect. Et globalement, on va dire que l'intellect, c'est pas forcément la priorité pour le plus grand nombre des hommes.
Christina, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement ces deux catégories-là. Après, une femme qui a envie d'un gangbang peut avoir envie de cérébralité, mais pas forcément. Elle a peut-être juste envie d'assouvir une espèce de fantasme de domination par son nombre important d'hommes.
Ouais, mais là, t'es dans l'intellectualisation, la domination.
Oui, mais, c'est le fait de s'offrir comme ça à des hommes ni vus, ni connus, ni avant, ni après. Ce qui peut arriver parfois sur les parkings, ça existe encore. Les femmes qui s'offrent comme ça, elles disent, voilà, à telle heure, je suis à tel endroit, venez.
Ça me rappelle une soirée au Cap cet été, mais j'en dis peut-être un petit peu trop.
C'était pas avec moi, Benjamin.
Non, et j'ai pas participé, hein, je te l'ai à le dire. Mais bon, si je l'avais fait, je l'aurais dit aussi. C'est pas, donc, 100% bonne foi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Philippe Rigaud, d'avoir été avec nous ce soir.
Bah, c'était un plaisir.
Attendez, parce qu'il n'a pas donné
tout
à fait sa définition de la libertine. Il n'y en a qu'une, justement.
Non, il n'y en a pas qu'une. Il y a aussi une femme, un type de femme qui peut être là pour cuter, point à la ligne, enfin se faire cuter. Mais c'est plus rare, franchement, c'est plus rare. Ouais, globalement, la libertine, elle a une exigence de jeu, de subtilité.
Je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin. Il y a aussi la libertine, et ça, il y en a beaucoup qui veulent juste se faire une meuf pour se faire une meuf. Sans que ce soit scénarisé, sans que ce soit dans un univers particulier, juste parce que le plaisir du corps de la femme, c'est un truc qu'elle recherche. Et là, on est clairement dans le corps, tout comme un mec.
Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai le sentiment que c'est un cas de figure qui est moins fréquent que chez les hommes.
Alors, dans la room, on nous dit Freedom, c'est pas un peu réducteur tout ça? Si, mais il l'a dit en préambule parce que je forçais à ce qu'il réponde à cette question. C'est pour ça. Donc, voilà. Donc c'est ma faute, Freedom, s'il réduit ça, mais on est obligé parfois aussi de faire des raccourcis comme ça. Christina, est-ce qu'on a tout dit?
Je ne sais pas si on a tout dit, mais on en a dit beaucoup.
Très bien, merci beaucoup. Tu es ma caution ce soir pour savoir si on a été exhaustif. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Rigaud, d'avoir été avec nous ce soir. Des bisous à Laine.
J'y manquerai pas.
Pas sur Laine, hein, ça serait un peu gênant. Puisqu'on n'est pas assez proche pour ça. En tout cas, on peut lire votre travail, donc fragments sur le libertinage contemporain un petit peu partout. Est-ce qu'on le trouve en dématérialisé?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis un homme de l'ancienne génération. Pour moi, il y a le papier, le reste n'existe pas.
D'accord, très bien.
Qu'est-ce que c'est réducteur, ça? C'est pas très libertin.
Voilà, on met dans le cadre. Hein,
et c'est une ancienne libraire qui vous en parle.
Non, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai un côté quand même très conventionnel, malgré mes sujets de recherche. C'est assez old school.
On peut kiffer les livres et ne pas être à la page.
Excellent.
Excellent. Voilà, on va se quitter là-dessus, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur papier, fragments sur le libertinage contemporain. Moi, j'ai trouvé à la FNAC, voilà, si vous avez envie de voir sur Internet. J'ai vu passer, parce qu'il y a eu un gros fight sur le jeu de la capote. On nous a dit, non, c'est moi qui ai dit le premier et tout, Libertinum. Apparemment, tu l'as dit le premier, donc je te crois, parce que tu es soutenu par d'autres personnes dans la room. Et ben, c'est pas grave, toi aussi, tu envoies tes coordonnées à Sabrina Wild, dont on verra aussi. Un sextoy, les lots de ton choix, parce qu'on est honnête, et ça défile tellement vite que des fois on peut zapper sous le feu de l'action. Voilà, en tout cas, Libertinum, tu n'hésites pas, Sabrina Wild tout attaché, on t'enverra un sextoy les lots. Alors, on avait aussi, en préparant cette émission, posé la question sur la page Wild, sur wild.com, en préambule de la thématique abordée ce soir. Plutôt que de parler d'évolution, il serait préférable de parler de régression en parlant du libertinage. Ça me touche, tu vois, j'ai du mal à le dire. Le clivage ne fait que s'agrandir. Beaucoup viennent pour combler un manque et pas pour le plaisir de tous. En gros, c'est égoïste et on vient pas dans le libertinage dans le but de faire plaisir. On y va pour assouvir quelque chose, un besoin.
Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas pour assouvir un besoin ? Enfin, en fait,
bah oui.
Je sais pas, manger est égoïste, aller au restaurant est égoïste, travailler est égoïste aussi. Enfin.
C'est le fait de se faire plaisir à soi peut éventuellement faire plaisir aux autres, mais c'est se faire plaisir à soi d'abord.
Ouais. Et le libertinage est égoïste par nature, c'est ça. C'est
même dire, parfois égocentrique. Hein,
bah oui, donc, mais c'est pas grave.
Non.
Oui, on nous a dit, je ne sais pas si ça le rejoint, mais un tout petit peu quand même, il y a beaucoup de prétentions dans le libertinage. Est-ce que tu vis ça aussi, toi, Christina ?
Oui. Il y a des... Comme dans toute société, là, c'est une communauté, c'est même une micro-société, il y a des classes. Il y a des classes sociales, il y a des gens qui sont... au-dessus, je ne sais pas trop pourquoi.
Qui s'estiment au-dessus, c'est ça qui se met sur.
Qui s'estiment, je ne sais pas, je ne les connais pas, je ne peux pas dire s'ils sont au-dessus ou pas, s'ils s'estiment ou pas. On ne fréquente pas les mêmes sphères. Mmh. Voilà. Mais effectivement, oui, il y a toujours ce fameux clivage vrai-faux libertin, et sachant que le curseur est placé différemment des uns ou des autres. Certaines femmes sont totalement. Contre les hommes qui sont mariés et qui viennent pour libertiner. D'autres sont beaucoup plus compréhensives et estiment qu'on n'a pas à se mêler de leur vie privée. On a affaire à la personne qui est là et pas à sa vie privée à lui. Mais effectivement, oui, il y a des classes. Il y a des groupes qui se font. Il y a la vie parisienne et puis la vie en province qui est un peu différente.
En gros, tu es en train de dire que c'est juste le reflet de la société et c'est tout, quoi. C'est pas propre au libertinage.
Mais ça ne peut pas être autrement.
Bien sûr, bien sûr.
Ça ne peut pas être autrement.
Il y a les classes d'âge aussi. Les jeunes ne baissent pas forcément avec les vieux. On baisse pas avec papa.
Oui. Et on baisse pas avec son fils non plus. Voilà, c'est...
Alors, on va enchaîner. Oui, David.
Ah, pardon. Non, vas-y. C'est, cet élitisme, il est présent dès le début, historiquement.
C'est vrai?
Ce qu'on a appelé libertinage. Ça vient quand même, enfin, ceux qui ont été désignés libertins au départ, par toute fin du XVIe, début du XVIIe, c'est quand même les classes qu'on dirait CSP+, aujourd'hui, si on transposait, au niveau des classes dirigeantes, au niveau de l'aristocratie, au niveau de la bourgeoisie. Donc, il y avait ce côté élitiste, et où c'était des intellectuels, etc. Donc, parce que le fait de se positionner aussi contre le dogme religieux, il fallait... c'est évidemment pas toute la population et toute la société qui pouvait écrire des ouvrages pour dénoncer les dogmes, etc. Donc, il y avait déjà cet élitisme-là à l'origine. Et après, il y a la démocratisation et les élites, parfois, ne supportent pas beaucoup la démocratisation.
D'accord. Christina, c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois régulièrement, toi, sur Wild ? Ou ailleurs, hein, enfin, il n'y a pas de...
Ça se voit un peu partout, mais... C'est vrai que j'y fais pas trop attention, en fait, parce que les personnes que je rencontre ou que j'ai envie de rencontrer, elles sont pas dans ce genre d'élitisme, ou alors je les rencontre pas, parce que ça me correspond pas. Donc, mais ça peut être intéressant de croiser le fer, en tout cas, avec eux, de discuter avec eux, d'échanger un peu et de voir la façon dont ils fonctionnent. Je peux rien dire, je les connais pas. Je ne sais pas la façon dont ils libertinent, dont ils organisent leur soirée ou pas.
On passe à autre chose et puis c'est tout, quoi.
Voilà. Ouais, c'est voilà. Le jour où ils viendront me voir, éventuellement, je pourrai en apprendre un petit peu plus, mais pour l'instant, c'est pas le cas.
C'est un appel à tous ceux qui organisent des soirées. Christina est là.
N'hésitez pas à venir me parler. Je suis très, très ouverte d'esprit. Voilà.
On parle du libertinage, de son évolution. Je perds mes fiches, en fait, avec Thibaut de chez Wild qui s'occupe des partenariats avec les clubs. Rebonsoir Thibaut, merci d'être avec nous. Christina, qui est une abonnée, et je parle très, je sais pas pourquoi, parce que je peux baisser le débit et parler calmement. On est au calme, tu vois, on est bien. Christina, tu es avec nous parce que tu nous kiffes et qu'on te kiffe,
ouais.
Tout simplement. Voilà. Et que si vous avez envie de voir une émission totalement loufoque, c'était l'année dernière, piocher dans tous les replays, c'était en juin.
C'était l'émission du 1er juin.
Tu t'en souviens?
fait,
souviens.
C'était le lendemain de mon anniversaire.
Ah là là, mais on l'a bien fêté.
Ah, on l'a très bien fêté.
T'as vu quelques bougies, hein, on va pas se mentir.
Je n'en ai pas soufflé, mais j'en ai vu.
Non, parce que voilà, on est là quand même pour faire les choses sérieusement.
Non, mais par contre, j'ai apprécié les mojitos de Thibaut.
Thibaut a fait des mojitos. Ah, donc, là, si vous voulez revoir cette émission dans un tout autre décor, la saison 1, pour ceux qui nous découvrent ce soir, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc voilà, c'était une super émission qu'on a faite ensemble. Et puis, David Simard, qui est sexologue, philosophe, qui est un peu notre référent. Donc dans un instant, on va jouer avec vous tous et les infos intox de Flore Chéri. J'ai vu un très beau message passer dans la room, là. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Freedom qui nous dit « C'est dommage de se diviser ». Bah ouais.
Mais ouais.
Franchement,
il
hein,
a bien raison.
Des fois, on retourne au... Je pense que Joseph sera d'accord avec quoi. C'est dommage de se diviser. Retourner au basique, c'est cool quand même.
Simple.
Basique.
Simple.
Aurel San. Ouais. Thibaut, il y avait la chanson dans la tête parce qu'il kiffe, il écoute ça à longueur de journée. On a eu beaucoup de messages. On parlait juste avant Petit Biscuit qu'on écoutait il y a quelques instants. On a mis un message sur la page Wild de Wild.com pour avoir vos réactions sur l'évolution du libertinage qui est le thème de cette émission ce soir. Et Joe Buck qui nous disait « Je lis un nombre certain de fiches que le libertinage, en gros, il change et que Netesh se dégrade par rapport à « ouais, voilà, c'est plus comme avant ». J'ai fait sur ce site de bien belles rencontres que je n'aurais sans doute jamais faites autrement en raison de mes propres préjugés culturels. J'imaginais les soirées privées fréquentées par une petite élite socio-économique. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure de cet élitisme dans le libertinage. Mais que lui s'imposait aussi, il disait « tiens, c'est pas pour moi ». Alors qu'en fait, il suffit juste d'y aller et de profiter des moments. Après, que ça te plaise ou non, c'est autre chose. Mais au moins, de pas se mettre des barrières. Et puis, qui contredira le fait que c'est vieux comme la nuit des temps, le « c'était mieux avant » ?
Ah ben oui, c'est une ancienne, ça. C'est, tout le monde le dit, et toutes les générations le disent. Et
c'est pas propre aux libertés. Là, je suis en tour, c'était mieux avant.
Bah, oui.
C'est la nostalgie.
Ouais.
Même Socrate le disait, n'est-ce pas, David ?
Socrate, il disait pas c'était mieux avant.
Bah, il t'a fait
la génération.
Mais si, il disait la génération d'après, c'est la merde, Socrate. Tu vois, au moins 500 avant Jésus-Christ.
Avec que des FDP. Ouais. Il disait FDP à l'époque, en plus.
C'est ça, voilà.
L'érudit, quoi, tu vois.
Il disait que la génération suivante ne respectait rien. Mmh. Déjà, au moins 500 avant notre cher Jésus.
Ce qui est toujours le cas.
Ce qui est toujours le cas, hein.
Ouais, ça c'est.
Elle respecte pas les codes des anciens.
Mais oui.
Et c'est tant mieux.
Mais parfois, bon, comme pour lui, l'âme était éternelle.
Une jeune, en fait.
Non, c'est ça. Ouais, il disait exactement ça, Socrate.
C'était mieux avant.
Ouais.
Non, il disait pas c'était mieux avant. Sa théorie, c'était, celle qu'on lit dans Platon, en fait,
ouais.
Parce qu'il a rien écrit, il est un Socrate.
On est au courant.
Grosse perte.
C'est l'idée qu'il y a une éternité de l'âme finalement. Donc il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas de pendant, il y a une éternité de l'âme, mais qu'il s'agit, une fois qu'elle est incarnée, même si ce n'est pas le terme qu'il emploie évidemment, mise en corps, disons, il s'agissait de faire en sorte d'avoir une méthode qui permette à cette âme de retrouver les idées qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle avait oubliées en s'incarnant.
On a MLJM qui enrichit ce que tu dis. Le changement fait peur, on sait ce qu'on perd sans forcément savoir ce qu'on va gagner. Mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur, il faut faire aussi confiance, non ? C'est aussi une bonne chose.
On perd ses repères. Mm. On le voit en ce moment, il y a un certain nombre de discussions sur mais comment on va faire maintenant avec les femmes, etc., avec tous les MeToo, balance ton porc, etc. Et on voit une espèce de panique qui surgit. Alors une panique contre un supposé puritanisme, il y en a un peu aussi par endroit du puritanisme,
ouais.
Une panique contre des manières de faire, des manières de se comporter, des manières de s'aborder les uns les autres, de s'aborder et pas de s'importuner, c'est même antinomique le terme, même étymologiquement. Donc on voit que quand les choses changent, que les codes changent, etc., il y a un moment de flottement où un certain nombre de personnes se disent « comment on va faire ?» puisqu'on a été habitué à faire d'une certaine manière depuis tout petit. Et puis évidemment, il y a celles et ceux pour qui la façon dont ça fonctionne, c'est à leur avantage et ils ont peur de perdre ce type d'avantage avec les évolutions.
Mais c'est inéluctable. Chaque génération aura son « c'était mieux avant » ou c'est vraiment une question de personnalité. Christina, est-ce que tu dirais un jour « c'était mieux avant »
J'espère que non.
Là, je sais que les gens ils parlaient de WAG, donc qui est un outil, voilà, mais pour d'autres choses.
J'espère que non. Je pense que je suis parfois un peu nostalgique de certaines choses que j'ai vécues avant, mais je découvre tellement de choses nouvelles qui me plaisent et qui me font avancer que j'espère ne jamais dire ça. Par contre, je dis bien que la génération qui arrive, il y en a certains, c'est des petits cons.
C'est petits cons, bien sûr.
Voilà. En commençant par mon fils, hein. Mais bon.
Comme tu y vas. T'es comme ça un petit peu, toi, Thibaut, le c'était mieux avant ou pas?
Ouais, un peu.
C'est vrai? T'es un peu réac?
Ouais, faut croire, puisque j'étais un gros fêtard avant et j'ai plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les soirées sont moins intéressantes et moins festif qu'avant, alors qu'en fait, c'est juste
c'est
moi
toi,
qui vieillit.
Non, vieillit, hein, c'est ça aussi.
Ouais, voilà, ouais. Je dis les nouvelles musiques, c'est pourri, alors qu'en réalité, c'est juste que je... Il faut que je m'y habitue.
Joseph.
Si t'as un problème avec les autres, c'est souvent que le problème, c'est toi.
On a deux philosophes ce soir.
Ouais, c'est beau. Hein.
Alors, c'est une citation encore Aurel San.
Pas loin, voilà, de Socrate. Hein,
mais c'est ça, et dans la même chanson, non, parce que je reste simple, basique.
Simple,
c'est
basique.
C'est la même chanson.
On peut le dire autrement, c'est que tous les problèmes qu'on a avec les autres, le point commun, c'est soi.
Oui, voilà, exactement. Exactement.
C'est pour ça que t'es là ce soir, pour nous calmer. C'est vrai que les Blue Blondes sont récurrents. Thibaut. Ce matin, il est arrivé Blue Monday. Alors, le mec, il est comme ça. Voilà,
explique ce que c'est le Blue Monday aux gens qui ne connaissent pas. C'est le lundi matin. Voilà, c'est le lundi de la déprime et c'est censé être un jour particulier dans l'année qui est le. Benjamin, puisque
le
ça change.
Le troisième lundi de l'année, de janvier.
Ouais, de l'année.
Ouais, de l'année. Merci de recontextualiser aussi cette émission, Flore.
Alors, en tout cas, merci beaucoup.
Voilà, il y a Tony City qui nous dit: moi, je préfère mon écran LCD de 50 pouces que ma TV à tube cathodique. Voilà. On peut pas dire c'était mieux avant. Voilà.
Mais oui.
Mais il y en a qui vont te dire: je préfère le noir et blanc. Voilà, mais
et ça... en même temps, Nintendo ressort les vieilles manettes de jeu, les vieilles consoles de jeu.
Bah, évidemment.
Il y a une envie de mélanger un peu l'ancien, le nouveau. Et je trouve que c'est plutôt pas mal.
Ça, c'est vintage.
Ceux qui jouent à la Nintendo ont maintenant un gros pouvoir d'achat.
C'est ça.
Oui.
C'est ça.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos vannes dans la room, vos questions, vos réactions. On est ensemble encore pendant une demi-heure. Et maintenant, il est l'heure des infos intox de Flore Thierry.
Alors, je vais vous donner 6 définitions qui sont issues, alors 3 vraies, 3 fausses, sur le milieu du libertinage. Je vais vous lire.
Je
vais vous donner la définition. Vous me dites si c'est une vraie définition, si ce mot existe vraiment ou pas. Le flashing, art de dévoiler son corps dans toute son intimité en coup de vent dans des endroits parfaitement inappropriés. Le boob flashing est par exemple très pratiqué au carnaval de la Nouvelle-Orléans.
Oui.
Vrai.
Bah vrai.
Je ne sais pas.
Je pense
Moi j'irais faux.
Tu sais quoi Flore, je pense que tu arranges un petit peu la réalité. Le flashing existe.
Oui.
Oui, donc ça existe.
Oui, c'est vrai.
Ah, trop cool. Peut-être que vous. Bon, je
voilà, c'est peut-être pas si difficile que ça. Voilà, j'ai essayé d'être difficile. Le dogging, jouer en extérieur dans le but d'attirer des voyeurs, voire même de les faire jouer avec soi.
J'adore le dogging.
C'est pas la définition du dogging. Ça,
c'est
non.
Quoi ta définition? Alors, du coup, c'est vrai.
La définition du dogging, c'est. Je crois que c'est dans le BDSM. C'est le fait de transformer l'une des personnes en un chien.
Non, c'est le pet,
un animal.
C'est le pet play, ça.
C'est le pet play, alors je sais pas.
Ah oui, le dogging.
J'aurais dit la levrette, mais.
Ah non, c'était le doggy style.
C'est le doggy style.
Non, c'est dogging, c'est pas la contraction de dogging style.
Non.
Donc je dirais qu'il n'existe pas, en fait.
Si, ça existe, le dogging.
Moi, je dirais qu'il n'existe pas.
J'ai passé pour un gros sale.
Mais oui, ça existe.
Bah oui,
mais c'est ce que je viens de dire.
Ah, pardon, j'avais pas entendu. Pardon,
mais c'est la définition. Enfin, jouer en extérieur dans le but d'attirer des voyeurs.
Très bien. Donc, c'est vrai.
J'étais persuadé que c'était de mettre un jogging et de courir le jogging.
Le dimanche, tu vois. C'est
t'as mis ton jogging.
Voilà, j'ai fait mon jogging. Là, je me sens bien.
Ok. Le negging, participer à une partie fine en tenant un rôle du début à la fin humiliant, valet, je vais arriver, animal ou femme de ménage.
Non, c'est faux.
C'est faux.
Moi, je vais dire
le legging.
Le legging.
En legging.
Legging. De négation, de. Non, moi je dirais non.
Bah, c'est faux, j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Ok, c'est
tu es un peu de science.
Toi.
Définition, mixte party, soirée libertine qui se déroule dans un lieu souvent confiné, empli de fumée. Une mixte party. Ouais.
Alors je le ferais bien ça, c'est comme les soirées mousse mais en version fumée quoi.
C'est ça.
Moi, je dirais faux.
Moi je dis c'est faux ça, ça n'existe pas.
Je sais.
En version il ose
plus.
Brouillard.
Il ose plus, David. Ouais, c'est
pas encore.
Moi, je dis faux, en fait.
Comme okay. disait Socrate, je sais que je ne sais pas.
Ça n'existe pas.
On est encore sur Socrate.
MDF, c'est une plaie du libertinage, consommateur excessif. Et dans ça voudrait dire mort de faim.
Bah
les
vrai.
Gens irrespectueux.
Bah
c'est
vrai. Bah vrai.
C'est vrai. Vrai. C'est vrai. Dernière définition, le team harceling. Le TIB harceling, pratique sexuelle pas très sympa, sympa, qui consiste à envoyer des coucou ça va à Thibaut sur Wild.
Ça existe, non, ça existe.
Pas moyen Thibaut, doudou.
Pas moyen Thibaut, Thibaut, toi Thibaut l'amour.
Merci beaucoup, Florent. C'était les infos intox de Flore Thierry. Si vous voulez gagner des
bien
magazines.
Bien joué, en tout cas.
Union, ouais, on est plutôt calés. Hein.
Mais ouais, plutôt calés. Bah oui, je parlais des experts en même temps.
Donc. Eh bah attends, on n'anime pas cette émission pour rien. Donc voilà, pour gagner des magazines d'Union, c'est simple. Il faut être les premiers à envoyer un message à Sabrina Wild, qui est en vacances, qui vous répondra dans quelques jours. Avec vos coordonnées, les 10 premiers remportent des magazines Union envoyés par toi-même, Flore, parce que tu es comme
sympa.
Ça. Voilà. Ben, c'est cool. C'est bien. J'ai bien aimé. Je reste un peu sur ma fin, je voulais encore, parce que moi j'adore jouer, je voulais encore des trucs comme ça. Mais
Alors attends, après j'ai d'autres définitions.
Ah bah je veux bien, si t'as encore des trucs, moi je...
Mais en fait je veux que vous me disiez la définition et je vais vous dire le nom.
Ah vas-y.
Plan carré.
Un quoi? Un plan carré?
Plan carré.
Ça n'existe pas.
Plan carré.
Texte pas ça.
J'ai dit que c'était que des vrais noms.
C'était que des vrais noms.
On te demande pas si ça existe ou ça, pas.
Écoute, c'est tout, j'ai dit que ça n'existait pas.
C'est un jeu entre deux couples, peu importe la tendance partagiste. Donc c'est tout ce qui est côte à côtisme, mélangisme, tout ce que tu veux, ou échangisme. Ça s'appelle un plan carré dans l'absolu.
C'est vrai?
D'accord. Quand t'es quatre.
Oh, d'accord.
Plan carré.
Ah, parce que d'accord, ok.
Bon, alors après, c'est les deux simples que je vous ai pas mis. Parce que
couple sympa, bille avait trouvé.
Trop simple, mais vous allez me donner les définitions. Le cuckolding.
Ah oui, ça existe.
Ah oui, ça c'est.
C'est l'humiliation du mari ou de.
Oui.
On ne demande pas si ça existe, Benjamin.
Je suis en train de te la donner. Fini, Christina.
C'est une version du candolisme.
C'est une version du candolisme, mais la version.
Il y a un côté humiliant.
Voilà, BDSM humiliante. C'est souvent l'homme qui va regarder la femme. Alors après, on peut trouver plein de machins où il aura une cage de chasteté, où il y aura de l'humiliation, des crachats, où il doit parfois lécher le sperme de l'autre.
Il y a
parfois un peu d'interracial, ou un noir qui va prendre un couple, enfin une femme blanche et un mari blanc.
Et qui va se faire insulter par l'amant en même temps.
Par l'amant, mais voilà, surtout par la
femme. T'as vu comment
aussi,
je la prends
ouais, voilà.
T'as vu comment il me baisse,
c'est pas tout. Voilà. On dit pas un amant, on dit un boule dans ce cas-là.
Non. Un boule?
Ouais, non, que par rapport au taureau.
Ah bon?
Ou un étalon?
J'ai beaucoup de sites de candolisme.
Alors, faut savoir que Thibaut, qui travaille chez Wild,
il se documente.
À chaque fois que je passe devant son ordi, c'est un site de cul.
C'est un peu normal.
Ouais, alors, du coup, c'est l'excuse.
Pas que.
Non, c'est vrai. Mais ouais, il y a une notion effectivement d'humiliation dans le cuckold où t'as vu comment il me baisse, c'est pas toi avec ta petite bite que tu baiserais pareil, etc. Il y a vraiment un jeu de rôle qui est rigolo pour ceux qui kiffent faire ce genre de choses.
Ah, c'est un jeu de rôle.
Ouais.
Ah, merde, je le prenais super mal.
N'oublions pas que dans le libertinage, il y a une notion de consentement aussi. Hein.
Ah bah, je vais le rappeler. Hein.
même hors libertinage, normalement.
Oui. Oui, non, mais.
Sinon, après, ça tombe sous le coup de la loi.
Mais là, David, tu pètes l'ambiance. Tu pètes l'ambiance, je tiens à te le dire.
Non, on a un message d'Angora qui confirme ce que tu disais, Thibaut. Oui, l'amant est appelé boule dans le cuckolding.
D'accord. Bien joué. Voilà. Donc, belle culture. Bravo.
Hein. C'est amateur de.
Il a une culture du cul, lui.
Ouais. Non, c'est vrai.
Non libertin.
C'est vrai.
Ça ne n'empêche pas d'avoir une culture. Hein.
Une culture. Une culture.
Ouais, non, c'est cool. C'est vrai. Est-ce que t'as encore des.
Et le pegging.
Ah ben bah, on l'a vu dans l'émission ça. Oui. Le 19 décembre 2016.
C'est une femme qui prend un homme avec un gars de ceinture.
Voilà,
exclusivement avec un gars de ceinture.
Exactement.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas outillé autrement, sinon on
n'a
pas
fait.
Elle pourrait le faire avec un objet, avec un gars, mais c'est pas du pegging.
C'est d'accord. Le pegging, c'est vraiment le gars de ceinture. D'accord. Exactement. Mais vous êtes trop fort pour mes jeux.
Hein. Bah ouais, attends, on se renseigne. Hein. Bah ouais, mais il faut se renseigner aussi dans la vie. Nous, on est à fond. Le pegging, c'est vrai qu'on l'avait vu dans l'émission. C'était génial. Franchement, c'était cool. On était très fiers de proposer ce type de comment je vais m'en sortir là. Je suis comme ça. Là, c'était génial.
Toutes les pratiques sont bonnes à montrer. Mais ouais, au moins, grave, certains ont une mode d'emploi.
Grave. Donc, voilà. Au moins, on sort aussi des choses dans cette émission. Allez, on est ensemble encore pendant 20 minutes. On va continuer sur ce thème du comment évolue le libertinage, en tout cas à votre échelle, à votre niveau, hein, si vous avez beaucoup d'expérience ou pas d'expérience, en tout cas des questions, n'hésitez pas à le faire dans la room, on est ensemble pendant encore 20 minutes. On nous dit, couple 43-43, nous dit qu'on voit de plus en plus de personnes en club qui n'osent pas. Il prend l'exemple de sa femme qui va se mettre à quatre pattes et personne ne va venir pour l'apprendre. Comment t'expliques ça, toi, Christina?
Alors, je me suis jamais mise à quatre pattes en attendant qu'on vienne, hein, mais... Mais
il précise que, parenthèse, il y a de moins en moins de vrais libertins en club, plutôt des clubbeurs, des gens qui viennent s'ambiancer.
Mm. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Ça va dépendre des clubs, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre s'il y a une soirée organisée ou pas, si c'est un thème ou autre chose. Mais je pense qu'il y a, il y a peut-être une certaine timidité. De la part des hommes seuls, je suppose, parce que ils ont dû se faire rembarrer un certain nombre de fois, gentiment peut-être, mais au bout de 4 ou 5 fois où ils s'approchent et on leur dit non merci.
T'es un peu timide, t'es un peu réticent.
Ils hésitent un petit peu à se prendre encore une veste.
Ouais.
Donc ça peut être ça, ça peut être, on est là juste pour regarder, on n'a pas envie d'autre chose.
Ouais.
Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Certains sont des voyeurs, donc.
Ou même la personne ne leur plaît pas. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que une femme se met à quatre pattes qu'un homme seul passe et se dit voilà, hop, c'est bon, on y va.
Après, ça dépend des clubs aussi. Si tu vas dans des clubs où il y a des grosses pluralités, tu peux effectivement te mettre à quatre pattes. Bah, tu te feras.
Ça dépend du club.
Attraper quoi.
Ça dépend du club et de la fréquentation aussi.
C'est sûr que si tu vas dans des clubs un petit peu plus soft, plus réservés pour les couples, même si c'est ouvert pour les hommes seuls, il y aura moins tendance dans la population à avoir des comportements, des pratiques un peu plus cash. C'est pas évident. On reste sur les relations humaines et il y a pas de source exacte quoi. On met des pratiques dans des cases pour définir parce qu'on est un site de rencontre. Mais après dans la vie. Il y a des feelings et.
Mais le libertinage, c'est une question de rapport humain.
Bah ouais, voilà. Tout simplement.
Donc,
je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, Philippe Rigaud l'a très bien dit, c'est de rentrer un peu plus dans les mœurs et c'est devenu un petit peu à la mode pour un couple non libertin d'aller dans un club libertin pour se faire le petit frisson. On le voit depuis maintenant 5 ans. Beaucoup de patrons de club, je suis en contact avec les patrons de club, donc là je vais pas parler de ressentis, mais de choses qui m'ont été rapportées. Il y a beaucoup de couples qui vont en club pour se donner le petit frisson et qui sont pas là du tout pour pratiquer. Et c'est vrai que il y a un petit peu cette nouvelle génération qui va en club, qui du coup en parle autour d'eux, donc les gens, ça débloque les comportements. Moi je le vois dans mon entourage, depuis que j'en ai parlé la soirée suivante, il y en a deux couples qui m'ont dit bon, on aimerait bien aller en club, tu nous conseilles quel club, tu nous conseilles quoi, et ainsi de suite. En fait, c'est rentré dans les mœurs. Il faut juste le temps que toutes ces nouvelles personnes apprennent les codes, rentrent dans les codes, rentrent se familiariser avec le milieu, et ensuite ils vont devenir des vrais libertins.
Mais en tout cas, ils sont pas moins libertins que des gens qui pratiquent
ils
de
ouf. Ils sont en apprentissage.
Ils sont en apprentissage. Il y a un moment, tu peux pas demander à un petit chaton de réussir à faire les choses. Il va faire des choses un peu maladroites. Il va mal s'en sortir. Il faut le laisser grandir.
C'est ce que j'aime chez lui, David. C'est son sens de la métaphore.
Oui,
tu vois. Ils ont tous cueilli. On a tous vu le truc. Non, mais c'est vrai,
de l'analogie même.
C'est beau. Non, mais tu as raison. C'est vrai. Ces gens-là ne sont pas moins libertins. Il y a plein de gens sur Wild qui sont là.
On a tous été débutants à un moment donné. C'est pas venu comme pas ça moi. D'un coup. Non, pas toi, moi. Toi, Joseph, on le sait bien que tu es inné.
Exactement.
Alors, il y en a qui vont en club, ce que je disais, Thibaut, pour s'offrir un frisson comme sur Wild en fait. Et alors? Enfin, ils ont le droit de s'offrir ce frisson-là. Je pense qu'il n'y a personne qui est là pour juger de « t'as pas le droit d'être là » parce que tu veux juste un plan avec une fille, par exemple, qui est un peu la licorne sur tous les sites de rencontres. Effectivement, le premier frisson, le schéma classique, c'est un trio avec une femme quand tu es un couple. Et alors, mais c'est chouette, quoi. Vivez vos envies, personne n'est là pour vous juger.
Si tu pousses pas la porte, c'est difficile de se mettre au libertinage si tu vas pas sonner chez tes voisins et dire bon bah voilà, on est chaud pour un plan à quatre. Est-ce que ça vous dirait? Il faut bien que t'aies une première démarche. La première démarche, la plus logique, c'est d'aller soit en sauna, soit en club. Et donc forcément, et bah dans les clubs, dans les saunas, il y a beaucoup de gens qui sont classés parmi les faux libertins, qui sont en réalité des néo-libertins, qui sont des libertins en devenir. Il faut juste les accompagner, il faut être un petit peu conciliant avec ces gens-là.
Et quand bien même, ils restent sur les mêmes pratiques toute leur vie.
Oui, peut-être qu'ils vont rentrer chez eux et qu'en fait, ça ne va pas les intéresser. Je pense, enfin, dans tout ce que j'entends là sur les vrais libertins, faux libertins, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Ce qui me frappe là, comme ça, c'est que un ensemble de pratiques, on va dire, qui repose sur un thème, sur un terme construit sur l'idée de liberté, on ne peut pas, du coup...
Contraindre,
prétendre que si on a passé les portes d'un club, ça veut dire qu'on doit obligatoirement participer, qu'on doit participer à telle ou telle chose, qu'on ne peut pas faire que regarder, juste venir voir par curiosité, et peut-être que finalement ça ne nous intéressera pas et qu'on rentrera chez soi et puis on en restera là. Enfin voilà, si c'est vraiment la liberté sexuelle qui est défendue derrière ça, la liberté sexuelle, c'est aussi la liberté de dire non. Y compris le fait d'être identifié comme libertin ou d'être identifié, alors je peux élargir un peu au-delà du libertinage, mais il y a comme ça des catégories de personnes, surtout femmes. On dit si c'est une libertine, si c'est une prostituée, si c'est une call girl, si c'est etc. Par fonction, je dirais, c'est donc pour avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, n'importe comment, etc. Et du coup, qu'on ne peut pas violer une libertine, qu'on ne peut pas violer une prostituée, parce que de toute façon, c'est son métier, etc. Non, c'est pas ça. La liberté sexuelle, c'est aussi de pouvoir dire non à certaines pratiques sexuelles, non à certaines personnes pour des rapports sexuels, etc. Sinon, c'est pas de la liberté. Non.
Christina.
La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est ces gens qui découvrent, qui veulent découvrir, c'est que il faut qu'ils y aillent de façon respectueuse. Ils y vont pas pour être à la foire aux bestiaux et regarder ce qui se passe et commenter de façon assez acerbe. Ça arrive parfois. Qu'il y ait des gens qui viennent juste pour s'encanailler un peu et qui sont très désagréables. Je suppose que les patrons de club les mettent manu militari dehors, ou en tout cas, s'ils sont au courant, ils les mettent dehors. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on débute, on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément les infos, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire.
Comme dans tout.
Et comment le faire. Il y a des endroits, il y a des clubs, il y a des endroits qui proposent des ateliers pour avoir des informations sur libertinage, savoir si ça leur correspond, avoir en tout cas les premières bases. Je pense notamment à la Divine Alcôve, qui organise régulièrement des ateliers justement.
Il y a un établissement qui est un bar libertin dans Paris.
Qui est excellent en termes d'ambiance, en termes d'accueil.
On ne peut pas coquiner dedans.
On ne peut pas coquiner dedans, mais justement, ça met dans une certaine ambiance libertine sans avoir le côté sexuel. Donc ça permet d'aller doucement vers ce milieu-là. Et ils font aussi justement des ateliers, des séances où ils expliquent aux gens qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, comment ils font se comporter un minimum, quoi.
Alors on nous dit qu'il y a une différence entre une personne qui ne sait pas faire et une personne qui s'en fout des codes et du respect. Mais bon, ça après...
Comme partout.
Mais en général, les personnes qui s'en foutent et qui n'ont aucun respect, elles ne font pas long feu dans le milieu en tout cas. Parce qu'elles sont vite éjectées, elles sont vite reconnues. Et
mais tu peux faire des maladresses et être respectueux.
Oui, non, mais, mais c'est justement ça. Il y a des gens qui ne sont pas du tout respectueux.
Mais oui, voilà. Et ça se voit.
Donc, ça,
Et juste pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est des soirées qu'on va dire verticales. Hein, plutôt, voilà. Et y en a
alors, on les appelle les soirées obliques.
C'est comme ça,
c'est parce qu'on reste
beaucoup
à la
diagonale.
Non, les soirées obliques. Okay. Parce que on est quand même dans un milieu qui est relativement libertin. On peut parler de beaucoup de choses. J'y vais de temps en temps et discuter de sexualité à table avec des gens qui sont collés autour. On fait pas ça dans n'importe quel bistrot.
Ou alors,
on est vraiment très très sûr de soi.
Nous, on le fait, Thibault.
Voilà, oui, non, mais moi je le fais aussi. Hein, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Et puis il y a cette dimension aussi un peu sexy. Il faut s'apprêter. Mmh. Il faut voilà. Donc c'est moi j'aime beaucoup ce genre d'endroit en tout cas.
Mmh, tout à fait.
J'ai débuté il y a 2 ans et j'avoue il y a des fois je suis arrivé à des endroits où la seule envie était de fuir. ça dépend de plein de choses. Ça peut dépendre du club. Ça dépend aussi de ton expérience. Des fois, on est trop timide, on se dit putain, mais où est-ce que je suis là, c'est pas possible. Quand tu débutes, pour la première fois, tu vas au club, tu fais non, putain, c'est chaud. Et donc, il y a ça aussi. Faut pas tout projeter, tout extrapoler. Il faut un peu de.
En général, quand on va en club, les patrons de club peuvent être assez compréhensifs.
Il faut leur dire.
Écoutez, on débute, on sait pas trop. Guidez-nous un petit peu. Donc, en général, ils commencent par une visite des lieux, et puis après, ils expliquent un petit peu quelques petites choses, et puis voilà.
Oui, Thibaut qui est en contact avec les clubs au quotidien, c'est vrai, c'est pas un mensonge. Hein.
C'est vrai, j'ai pas un seul patron de club qui me dit, moi, les débutants, en gros, ça m'intéresse pas, je les mets à la porte. Après, il y a des patrons de club qui disent, par contre, on prévient les débutants. Par exemple, si quand c'est une soirée pluralité masculine et qu'on a un petit couple, c'est la première fois qu'ils sortent en club.
Ouais, c'est pas conseillé.
On leur conseille de revenir une autre fois, mais parce qu'ils sont pas prêts. Mais là, c'est normal. Hein.
Et puis c'est un conseil. Ils leur interdisent pas d'entrer.
Voilà, ils leur interdisent pas d'entrer. Après, il faut bien choisir sa soirée et puis il faut bien se renseigner quand même avant de faire sa première sortie.
Bien sûr. En plus, il y a plein de libertins qui ont des blogs, etc., pour se renseigner, pour avoir des expériences. On en parlait la semaine dernière, aller sur Doctissimo, aller partout, aller voir sur Wine des témoignages, etc., parler avec les gens. Vous avez des outils formidables en plus maintenant. T'imagines, il y a 30 piges. Les gens, ils allaient, on va aux chandelles. Allez, c'est parti. Et là, tu partais, t'étais à poil, quoi. Tu vois. Maintenant, tu peux te forger un truc.
Tu finissais à poil.
Tu savais pas où t'allais. Ouais. Même s'il y a toujours cette frontière entre le virtuel et le réel, t'as plein d'outils maintenant pour parler avec des gens, pour comprendre comment fonctionne un milieu et saisissez-vous de ces outils-là pour faire vos premiers pas s'il y a des débutants qui nous écoutent ce soir.
Je pense à un blog en particulier qui s'appelle Les Fesses de la Crémière, qui est très bien pour, bon, ça parle aussi de polyamour, mais pour la gestion de la jalousie, la gestion de comment ça se passe.
C'est plus tourné, effectivement, tu disais, pour le polyamour, le couple libre également aussi.
Ouais, voilà, mais il y a plein de choses. Mais en tout cas, si on y va en couple, c'est bien aussi pour remettre un petit peu les choses à plat.
Voilà, et je crois que nous avons peut-être le mot de la fin ce soir, si je le retrouve. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages tout au long de cette soirée. C'était vraiment cool de vous avoir avec vous. J'arrive pas à retrouver le message. Franchement, il est cool. Tant pis, il y a beaucoup trop de messages ce soir, mais ça fait plaisir en tout cas. En gros, faites comme vous voulez, respectez-vous les uns les autres et tout ira bien.
On va créer une nouvelle religion en fait. Hein.
Grave.
Non, il y en a assez comme ça.
Oui, non, je suis d'accord avec toi.
Attention, on va remettre des dogmes.
C'est ça. Il y en a quelques-unes qui se baladent, on va la laisser tranquille.
Non, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, Joseph? Où on peut conclure cette émission, si tu veux. Moi, il n'y a aucun souci. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était hyper intéressant.
Il semblerait, tout à fait.
Ouais, bah, ceux dans la chatroom, si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre pendant quelques minutes. On me demandait s'il allait avoir une partie un peu plus hum-hum. Bah, non.
Pas ce soir.
On vous fait plein de bisous.
Non, peut-être après l'émission.
Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut?
Peut-être après l'émission.
avec toi.
Thibaut est chaud.
Et il est à gagner.
On va passer une bonne soirée, Thibaut, après. C'est pour ça qu'on finit plus tôt que d'habitude.
J'ai mon t-shirt quand même. Il faut pas que ça serve. Faut que ça serve à quelque chose.
Alors oui, tu as les nouveaux t-shirts Wild. C'est en exclusivité. On vous les montre ce soir. C'est des t-shirts qui seront bientôt dans vos clubs près de chez vous. En vente aussi sur store.wild.com, qui est notre e-shop, parce que c'est aussi une nouveauté en dehors du studio l'américaine. On a fait un e-shop pour ceux qui ont envie de trouver nos goodies. Et c'est l'un des 3 nouveaux t-shirts que vous pourrez voir. C'est le hashtag LCS qui veut dire libre ce soir. Et je pense que vous allez. Je pense qu'il va cartonner celui-là. Il est très beau, il te va très très bien. Il est un peu fité. D'ailleurs, on le voit. Tu es sur un quoi? On est sur un M, un L.
M.
On est sur un M. Bah, il te va bien, Thibaut. Je vois tes tétons en transparence.
Forcément, c'est un M.
C'est un M. C'est très beau. Il dit des belles choses, Joseph. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Thibaut. Je rappelle que tous les patrons de club qui nous regardent ce soir, bah, c'est avec lui que vous parlez au quotidien.
Vous pouvez ajouter Thibaut Wild.
Ouais, Thibaut Wild, tout attaché sur Wild.
Me parler sur Wild, je suis là pour ça.
Christina.
Il fait des très belles analogies, hein, il vous parlera de chatons, ça va être super. Ouais, ouais.
Derrière, c'est des propos hyper hardcore, mais il est maquillé comme ça, comme un filtre Instagram.
Il faut laisser le chaton jouer avec sa pelote de laine avant qu'il attrape un oiseau. Ouais,
c'est hyper vidéo. Merci Thibaut d'avoir été avec nous ce soir. Christina. Merci.
Merci, Benjamin.
C'est quoi ton pseudo sur Wild ?
Chrislo 78.
Tout attaché ?
Tout attaché.
Chrislo 78.
Mais moi, on m'attache pas. Hein.
Non.
Ah, Benjamin.
Bon. On va finir cette bouteille de champagne ?
Ouais.
On va finir ce petit sandwich ? Et puis, plein de choses. Voilà, on va se dire. David Simard, merci beaucoup d'avoir été. Un ouvrage bientôt en publication ou pas encore ?
Ma thèse, j'espère, bientôt.
Qui porte sur ?
La médicalisation de la sexualité et la question des perversions et de la santé sexuelle.
Bah Joseph, c'est pour toi.
C'est
hyper intéressant.
Ça fait super le temps que je cherche des pilules qui font bander sans ordonnance. Alors on va en parler après.
Par contre, pour toi, j'ai une petite olive, Joseph. J'espère que ce sera...
Une petite olive, tiens donc.
C'est une analogie.
C'est une analogie, ah, d'accord.
Ou alors c'est une référence à Popeye et Olive, je sais pas.
Non, pas du tout, pas du tout. Les épinards, non, peu, non vraiment pas. Vraiment
c'est quoi
pas.
Une petite olive
c'est... Bon, je vais t'expliquer. En, alors, en tout cas, merci David d'avoir été avec nous ce soir. Bisous Flore.
Bisous Benjamin.
Bisous Flore.
Bisous Benjamin.
Bisous Flore. À très bientôt. On vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. C'est peut-être un Blue Monday, mais en tout cas, j'espère qu'on aura un peu plus égayé. On va tous aller se coucher. On va penser à vous. Ne faites pas trop de sexe omni ce soir. Je répète.
Chacun fait ce qu'il veut.
On ne choisit pas. Hein. Franchement, c'est pas nous. On n'est pas là pour juger. voilà. On fait des bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant. Je vais pas te lâcher avec ça, c'est ça que je l'appelle Thibaut Doudou, encore de journée. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine, ciao.